Entendez sans peur le podcast sur un film d'Halloween. Nos soutiens ont voté le film qu'on incrimine. Ensemble on va décider si c'est du flan ou pas. Ce film où les mariés passent de vie à trépas. Ah bah la main fait n'importe quoi. Voilà, j'ai essayé de faire une intro chantée. Je voulais faire un truc un peu stylé, un peu artistique. Et puis la main de Émilie, là, elle fait n'importe quoi. Écoutez, j'ai essayé. Voilà, ce film, c'est du flan juste à cause de ça. Non, non, peut-être que c'est bien en fait.
J'aimerais être un flan. Un flan.
Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
Vous laissez pas avoir! À tous les coups, c'est du flan!
Faut l'animer, le podcast qui revient pour vous faire peur. Bouh. Bonjour Pauline, comment ça va?
Ah, ça va et toi?
T'as eu peur là, hein?
Ouais, ah bah.
Ouais, de ouf, hein.
Alors en vrai, j'ai peur. Mais pas pour les mêmes raisons.
Parce que t'es en train de faire la technique.
Pour une fois, ouais, je prépare pour prochain podcast probablement.
Ouais, bah oui, oui.
Et donc, on m'apprend à me former sur l'utilisation du H6 et des trucs techniques.
Donc si c'est tout cassé, c'est de sa faute.
Oui.
Et bref, c'est parti pour notre spécial Halloween. Ce sont les patronnes et les patrons qui ont voté pour le film de ce flan numéro 102. Ils ont choisi quoi?
Ils ont choisi les noces funèbres.
Ouais. Allez, c'est parti pour un beau podcast sur les noces funèbres. Un podcast avec un chien squelette qui mange des nonos funèbres. En vrai, j'aime bien.
Ouais, elle m'a fait rire.
Allez, on prend. Nous sommes membres de l'association Et la Bête, une association incroyable qui fait des podcasts, des lives et des sites. Et vous savez, pour nous aider, par exemple, vous pouvez nous laisser des commentaires sur les applis de podcast ou sur Spotify. On l'a pas dit depuis très longtemps, donc là, je me permets de le redire.
Et ben, c'est toujours mieux.
Voilà, plus vous mettez des étoiles et plus on est heureux. Et on a super... Tu sais qu'on a une super moyenne.
Ah ouais?
Je saurais plus te la dire, mais je crois que c'est 4,6, 7, 8, en
fonction de vous. Merci.
Bah, merci à vous, c'est super, continuez. C'est très gentil. Je pense que les gens nous aiment bien. Je pense que c'est ça que ça veut dire.
Merci, on vous aime bien aussi.
Oui. Mais en tout cas, il y a plein d'autres façons de nous soutenir et ou de nous découvrir d'ailleurs sur elabette.com. Mais il faut remercier les gens du Patreon justement.
Merci Marie. Merci Greg.
Merci
Canoa. Un merci à Pierre.
Merci
Damien. Merci Goudkar. Merci Samuel. Merci Antinéa. Merci Antoine. Merci Ludwig. Et merci Nico Ciné.
Merci. C'était le mariage en fait.
Ah, j'avais pas compris. Franchement, j'avais pas reconnu la musique. Je me demandais pourquoi tu faisais la musique de Star Wars.
C'est la même, si on les confond tout le temps. Mais avant de parler de les noces funèbres, on doit regarder déjà les résultats Spotify, Pauline. La dernière fois, on a parlé du film Dragon. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un contenu supplémentaire sur Dragon, disponible sur Patreon d'ailleurs. À ton avis, Pauline, les gens, est-ce qu'ils ont aimé Dragon?
Oui, bah oui, nous on a dit que le film était génial, j'espère qu'ils sont comme nous.
J'espère qu'ils sont comme... Mais oui, ils ont dit que c'est pas du flan à 83,3%. Il y a 3 petits pourcents qui disent que c'est du flan.
3% trop.
C'est 3%. Et il y a 13% qui ont pas vu le film. Sur 30 votes, c'est pas mal quand même. Ça commence à faire un paquet de monde qui a vu et qui aime bien. J'ai pris quelques commentaires, j'ai pas tout pris parce qu'il y en a beaucoup. Yen qui dit que c'est un bon DreamWorks, plutôt rare hélas. Ça c'est quelqu'un qui le suit, j'aime bien. Même si les bonnes suites font un peu redite de ce premier film. C'est ce qu'on avait dit, hein, que c'était pas forcément les suites les plus. Marmala Despoons, j'espère avoir bien dit le pseudo parce que c'était long. C'est toute mon enfance, il y a une obsession presque... pour la beauté de cet univers. Bah écoute, pourquoi pas. Amélie qui nous dit « Je suis d'accord avec vous sur tous les points. Cependant, je préfère Dragon 2 et Dragon 3, grosse déception.
Oh »
Donc là...
En vrai, je peux comprendre parce que pendant très longtemps, Dragon 2, c'était un peu la passion pour savoir si je préférais Dragon 2 ou Dragon 1. Donc, je peux comprendre.
Ouais, mais le 3...
tout à fait d'accord avec cet avis. Ça, c'est la Pauline d'une autre dimension. Qui...
Merci, Pauline de Terre 2. Et Azur qui nous dit... parce qu'on avait posé la question, mais est-ce que vous aimez les changements qu'on fait sur ce nouveau format de flanc, etc. Et ben, j'aime bien les changements apportés au format, même si on peut raccourcir la partie actu. Bah écoute, on va voir. Est-ce qu'on est en train de chercher une actu là pour en rajouter une? Oui, c'est possible. Et dans ces commentaires, il y a quelqu'un qui nous demande aussi de lire les avis sur Miraculous, le film, parce qu'en fait, le flanc, il est sorti alors qu'il y avait déjà la question sur Spotify, mais on n'avait jamais fait vraiment le point Spotify. Alors du coup, j'ai regardé parce que moi, je suis... Tu sais, c'est comme ça, on me demande des trucs, bah, je réponds aux gens, je fais oui, évidemment, etc. Ah, au moins. Et bon, il n'y a pas de sondage, mais il y avait quelques commentaires, et par exemple, Orlan qui dit « Cool le film et vous êtes trop marrant. » Donc ça, je prends, hein, parce que c'est pas si souvent qu'on me dit que je suis marrant, je prends. Donc merci. Et il y a Sophie Potter qui nous dit « Je suis ado, j'adore cette série, j'adore le film. Non, j'adore cette série, pardon. Le film m'aide à l'apprécier encore plus. Pour moi, c'est vraiment pas du flan. Merci d'avoir mis des extraits des chansons. Je me retrouve totalement dans certaines d'entre elles. » Donc, ce film, même si on n'était pas les plus dithyrambiques à son sujet, il y a quand même un public, hein, ça, on le savait, qu'il y avait quand même des fans. Quoi.
Heureusement qu'il y a un public.
En tout cas, il marche bien. Même le podcast, il marche plutôt bien d'ailleurs. Merci à vous pour vos avis. Mais l'autre nouveauté, évidemment, de cette troisième saison, le petit point actu, Pauline. Et je vais commencer encore par parler, voilà, du studio Ghibli. Donc le studio de Miyazaki, hein, avec Chihiro, Totoro, tout ça, tout ça. Et oui, parce qu'encore une fois, Miyazaki, il est revenu sur sa promesse. Et non, il prend toujours pas sa retraite, Pauline. Le mec, il a fait ça 8 fois dans sa vie, je pense.
Vraiment pas son fils.
Bah, c'est ça, c'est une histoire de oui, je cherche le meilleur successeur possible. Et puis, bah, il y a son fils qui fait bah, moi, éventuellement moi. Non, toi, je t'aime pas. Et non, en vrai, l'histoire, elle est, on en rigole, mais l'histoire, ça me semble glauque, toxique à mort, ça. Enfin, c'est vraiment cette. Parce que Goro, il a fait des films, il a fait Terre-Mère notamment, qui sont pas forcément les meilleurs films, et je crois savoir qu'en plus il est plus ou moins à chaque fois saboté par son père, et que bah c'est pas ouf quoi. Et bref, bon, vu qu'il il trouve toujours personne à son goût et qu'il a quand même 82 ans, Pépère Miyazaki, et ben il vient de sortir là Le Garçon et le Héron. Et d'ailleurs, c'est au Japon, de ce que j'ai vu, il est sorti sans quasiment aucune pub, et oui, il fait le meilleur démarrage du studio. C'est un truc de ouf.
C'est là où tu vois la puissance de Miyazaki.
Il est fort. Il est très très fort. Mais bah, a priori, plutôt que de refiler son studio, eh ben, il a été racheté par un studio de télé. C'est Nippon Télévision. Donc c'est un gros machin qui gère des très grosses séries, genre bah, Doraemon, vous connaissez peut-être pas, mais c'est au niveau de Dragon Ball ou One Piece, toi tu vois à peu près. J'ai un Doraemon Sushi pas très loin. C'est vraiment une boutique qui s'appelle Doraemon Sushi avec la tête du robot de Doraemon, qui s'appelle d'ailleurs, je crois, Doraemon.
Ah, par contre, je connais le personnage, mais je sais pas son nom.
Je crois. Bon, en tout cas, je peux avoir des sushis. Je vois pas le... Bref. Sinon, il y a d'autres trucs cool, genre ils font aussi Détective Conan, Berserk, Hunter x Hunter ou Death Note. J'aime bien Death Note. Moi, dans tout ça, j'ai vu Death Note. Voilà.
Dans tout ça, j'ai vu quelques épisodes de Death Note.
Ah ouais. T'as vu le début, c'est bien.
On m'a spoilé la fin, donc bon.
Faut pas regarder la fin, elle est moins bien. Et du coup, bref, ces gens-là, ils ont racheté Ghibli. Et la première annonce qu'on a eue, vraiment impactante en tout cas, c'est que bah, le studio de Miyazaki va faire de la série télé. Et ça, pour le coup, c'est assez étonnant. Même si je rappelle que Ghibli a fait un petit épisode court pour une grosse licence Disney cette année, est-ce que tu vois ce que c'est? Est-ce que tu te souviens?
Oui, c'est les Star Wars.
Ouais. C'est pas dans Vision, c'est sorti à part, vraiment. Ah. C'était un petit court-métrage de quelques minutes. C'est un truc qui s'appelle Zen, Grogu et les Susuwatari. Voilà,
vous savez que je le plante. Oui,
alors c'est Zen tiré et après c'est Grogu. Et donc Zen, ça a l'air d'être le genre de. Je sais pas. C'est un truc bizarre qui est très Ghibli, où c'est très dessiné, forcément. Donc t'as Baby Yoda, hein, qui fait des trucs avec des petits personnages issus de. C'est les petites bestioles de Totoro et de Chihiro, justement. Des petits machins qui ressemblent à des petites boules de charbon qui se baladent, etc. C'est très bizarre. Et bon, c'est mignon, c'est très dispensable. Sinon, vraiment, ça dure 2 minutes. Je fais oui, bon. Et donc, bah, peut-être que le studio va rentrer dans une ère où ils font plus de contenu comme ça, je sais pas.
Bah, l'avenir nous le dira.
Toi aussi, t'avais une actu, je crois.
Et bah oui, justement, en plus, tu me fais une parfaite transition en parlant de Disney. Comme quoi, c'est préparé, même quand
bien
ce n'est
sûr.
Pas préparé. Mais récemment, on a eu aussi des nouvelles de Wish.
Ouais.
Donc, on a eu notamment
le
un
prochain
nouveau,
Disney.
C'est ça, qui sort en décembre. Alors. Je sais pas le nom français, parce que c'est Wish de point, la légende...
La légende enfin, incroyable du gamin qui va faire des trucs
plus,
avec son étoile.
Mais
c'est peut-être une gamine, on sait plus.
Je sais, j'ai plus, mais je sais, j'appelle tout le temps par son nom anglais, parce
bah
que c'est
oui.
Beaucoup plus court. Mais je suis désolée, je n'ai plus le nom français, et je n'arrive pas à le retrouver sur les yeux aussi vite, donc tant pis.
Ça sera Wish.
On va continuer de l'appeler comme ça. Et on a notamment eu donc, un deuxième trailer, où on apprend un peu plus sur le scénario.
Ouais.
Et donc oui, on a comment s'appelle donc Wish et résultat ça a permis de trouver le nom Wish, Asha et la bonne étoile. Hein,
Asha, bah oui, ouais, Asha et la bonne étoile bien évidemment.
Et qui sort donc le 29 novembre. Donc
29 novembre. D'accord.
Donc on a eu un Donc un nouveau trailer et tout, où ça fait un peu peut-être pas une polémique, mais les gens sur les réseaux sociaux ont dit oh là là, c'est moche. Et
oui, en fait, dire ça pas mal.
C'est ça, et en fait, les gens ont découvert un truc magique qui s'appelle la compression YouTube.
Ah, mais oui. YouTube, c'est dégueulasse.
Et en fait, quand tu regardes le trailer en 4K, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de détails, comme en fait, ça se veut être un peu aquarelle, tu as beaucoup de détails qui sont effacés avec YouTube, et donc ça rendait moins bien sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est même le réalisateur ou l'un des producteurs ou un des chefs d'animation, mais en tout cas quelqu'un qui a bossé sur le film, a dit allez le voir au cinéma.
Arrête de faire chier.
Alors, il n'y a pas dit ça, mais qu'en gros, justement, le film rendrait très bien sur un très grand écran et pas sur des plus petits écrans, parce que le style aquarelle qu'ils ont cherché pour le film, ça marche mieux pour ça. Et donc, en même temps, ils ont aussi profité pour nous faire des informations aussi sur le court-métrage Once Upon a Studio.
Le court-métrage des 100 ans de Disney.
Voilà. Okay. Et en fait, à la base, il me semble que ça devait être avant le film. Et puis finalement, ils ont dit non, on va le mettre...
Après. C'est très bizarre.
Non, justement, on va le mettre avant. Là, il sort à peu près la semaine prochaine, si vous écoutez le podcast le jour de la sortie.
D'accord. Il va sortir là.
Il sort le 15 octobre.
Qu'en même temps, c'est le jour des 100 ans, c'est le 16, c'est ça ?
C'est ça. Mais donc, c'est compliqué parce que d'un côté, il va sortir aux États-Unis sur ABC, sur une chaîne télé. Et il me semble qu'après, ils veulent le mettre sur Disney+. Sauf qu'on n'a pas la date exacte. Enfin, c'est compliqué. On sait pas pour. Enfin, toutes les informations données étaient que pour les États-Unis.
D'accord. Donc, nous, on sait pas. On va voir.
On sait pas. Mais résultat, il y a des premières aussi images donc de ce court-métrage qui sont sorties.
Où t'as plein de personnages Disney de tous les films.
C'est ça.
Ça a l'air incroyable.
Et donc on voit
on voit Volt.
On voit Oliver et compagnie.
C'est bon, nos deux Kim que sont respectés, c'est parfait.
Ouais, tu vois, ils ont sorti carrément Oswald par exemple. Ouais. En tout, pour te donner une idée.
On a cité Volt, Oliver. Oswald, on a donc un chien, un chat et un rongeur. C'est la recette du bonheur, encore une fois.
Même pas fait exprès. C'est ça qui est le plus beau. Et donc, en tout, tu as 543 personnages Disney issus de 85 films d'animation.
Oh, ça va, ouais, il y aura tout le monde, quoi.
Peut-être pas tout le monde. Typiquement, je pense pas qu'il y aura la Mélodie du Sud. Hein,
c'est peut-être pas utile. Hein, vraiment, gardez-les, c'est pas grave.
Tout le monde, peut-être pas. Normalement, dans l'idée, il y a très peu de chances pour qu'un des films ne soit pas. Enfin, des personnages ne soient pas.
Déjà, t'as tous les classiques, les grands classiques, ils y sont, là, 85.
Même.
Il y a plus que ça, même.
Je pense, ouais. Je sais plus combien on en est. Mais en tout cas, oui, on en a plus que 85. Et surtout, je sais pas, on en fera peut-être un format court. Mm-hmm. Mais t'as aussi plein d'animateurs cultes qui reviennent pour l'occasion.
Ouais.
Voilà, donc il y a plein de choses très intéressantes sur ce court-métrage et j'ai très hâte de le voir.
Bah oui, t'as plus hâte de Wish ou du court-métrage, toi ?
En vrai, j'ai très hâte de Wish, mais l'idée de voir un truc comme ça, un peu crossover, où t'as tous les personnages, tu vois, il y a pas un côté Roger Rabbit et
c'est vrai.
Je suis très curieuse de ça et ça m'intrigue plus que Wish.
Je peux comprendre.
Après, je suis quand même très très hype par Wish.
Mais ça a l'air bien. Ouais. Ça a l'air vraiment bien pour le coup.
Puis en plus, on a l'air de retrouver un vrai méchant.
Ça fait plaisir.
C'est Chris Pine et Chris Pine, il a déjà fait des comédies musicales. Donc, notamment chez Disney, où il avait fait Into the Woods.
C'est vrai, c'est chouette Into the Wood.
Oui,
j'aime bien.
Et donc résultat, on peut espérer ça veut dire qu'on va retrouver une musique de méchant. Allez,
s'il vous plaît, on y croit, on se bat. Merci Pauline pour ces actus.
De rien.
C'était
merci
vachement bien
pour ces actus.
Bah,
c'était
avec
vachement
plaisir.
Bien.
Allez, il est grand temps de revenir à nos mariés. Nous allons donc parler de Les Noces Funèbres. Pauline, veux-tu nous donner le contexte, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr.
Bah, oui.
Alors Les Noces Funèbres, donc c'est un film américain.
Mais non.
En stop motion.
Mais non.
Réalisé par Tim Burton.
De la stop motion par Tim Burton, c'est fou ça.
Et co-réalisé par Mike Johnson. Parce que je trouve ça important de le dire. Parce que c'est tout le temps marqué, même sur mon DVD, Tim Burton.
Oui.
Et en fait, on se rend compte que c'est Mike Johnson a fait quand même beaucoup de choses pour le film. Et donc.
On l'oublie encore comme d'hab. Ouais. C'est encore un de ces films où dans le titre c'est écrit Tim Burton's Les Noces Funèbres. Et donc.
Peut-être un peu. Il y a un peu ça, tu vas voir.
Ouais.
Et donc le film est sorti le 19 octobre 2005 au cinéma en France. Comme quoi, c'est tire des films d'Halloween.
Putain, je pensais pas qu'il était si vieux.
Ah si. Enfin, si, moi je m'en rappelle.
Oh la vache. Ah.
Tu vas voir, il est sorti en même temps qu'un autre film de stop motion d'Halloween.
Ok.
Dont on a déjà parlé dans Flan l'année dernière, qui a gagné le sondage Patreon.
Oh, le lapin-garou.
La même année. Je sais pas si c'est la même. Je me rappelle plus. J'ai pas regardé en quel moment était sorti. Voilà, c'est Gros Mythe. Probablement vers Halloween.
J'imagine. Donc voilà, c'est Gros Mythe, le mystère du lapin garou. C'est sorti la même année que. Ouais. Ah ouais. Bah décidément, on est pile dans la période. Hein.
Et tu vas pouvoir faire la comparaison plusieurs fois avec.
Ok.
Et alors, tu ne le sais peut-être pas, parce que c'est pas un truc qui se sait beaucoup. Mm-hmm. Mais Les Noces Funèbres, c'est un film basé sur un conte juif du XVIe siècle.
Ah bah effectivement, je l'ignorais.
Qui est appelé The Finger. Alors,
le doigt.
C'est ça, en français.
c'est bizarre.
Et alors, c'est un conte qui a été rapporté et après, par la suite, traduit en 1987 par Howard Schwartz.
Okay.
Donc dans un recueil de contes juifs. Et à peu près à ce moment-là, un petit gars, tu vas voir, qui s'appelle Joe Ranft.
J'ai déjà entendu parler de lui. Donc, je commence à connaître les noms, c'est bien, il a fallu 50 flancs pour que je commence à connaître les noms, c'est terrible.
Bah, c'est entre il a fait un peu réaliser, mais surtout écrit beaucoup de scénarios.
Ouais.
Alors pour Pixar et Disney. Donc
Pixar,
pour,
moi je me souviens, ouais.
C'est ça, donc pour Pixar, toi tu te souviens parce qu'il a co-réalisé
Nemo.
Cars.
Mais il a fait Nemo, non?
Non.
Pas du tout.
En plus, d'accord. Il a fait plein de trucs pour Pixar, mais il a pas
vraiment
fait Nemo.
Pas Nemo, mais super. J'ai essayé, écoute. Cars, bien sûr.
Donc, il a co-réalisé Cars et il a écrit le scénario. Enfin, il est jamais tout seul, hein, mais il a aidé à écrire le scénario de La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Mille et une pattes, Toy Story 1 et Toy Story 2.
C'est pas mal.
Enfin, c'est pas mal.
C'est quelqu'un qui, en général, est plutôt sur les succès, d'ailleurs. Hein, c'est...
Oui, bah après, il y en a d'autres aussi. Typiquement, il a fait aussi Oliver et compagnie.
Oui,
moi,
bon.
J'aurais pu le mettre juste pour le dire et j'ai quand même réussi à le caser. Mais bon, on va pas se mentir.
Après, t'as dit Mille et une pattes, t'aurais pu le mettre aussi. Ouais,
en fait, c'est pour rester dans les Pixar, mais c'est vrai que Mille et une pattes, c'était pas aussi important.
Je pense que c'est l'un des Pixar les moins.
Celui oubliables, peut-être. C'est ça, c'est qu'on a tendance un peu à l'oublier, comme il est sorti tout seul dans son coin.
Il y a un autre lien avec Mille et une pattes que je vais faire dans ce podcast.
Eh ben, dis donc.
Ouais.
Ah,
tu l'as?
Je pense savoir. Hein, et...
Tu l'as?
Ouais, une chenille. Hein.
Alors ça peut. Je sais pas si on pense à la même personne.
Et donc, Joe Ranft, il travaille avec Tim Burton sur L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Oui.
Où, à ce moment-là, encore une fois, il aide au scénario du film. Alors, sachant que Burton et Ranft, ils sont super potes. Ils sont allés ensemble à CalArts. Donc, c'est l'école généralement où plein d'animateurs passent. Mm. Et donc, notamment, les deux, ils sont allés, ils ont sympathisé à ce moment-là, et donc ils sont devenus amis et tout. Et donc, après avoir lu un conte tiré donc, de ce recueil de contes juifs, qui raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve marié à une morte, qui est revenue à la vie, et une fois qu'en fait, il le
voit. Ça arrive.
Il décide d'en parler à Burton en disant « Ah tiens, regarde cette idée, c'est trop cool. Tu cherches une idée pour ton prochain film, potentiellement même un prochain film en stop motion. Bah tiens, t'as ça, c'est un peu ton style macabre et tout. »
Il aurait ajouté « C'est vraiment ton style de truc un peu dégueulasse là, avec des morts de partout. » Et l'autre, il a fait « Oui.
Je signe. » En plus, l'avantage d'un conte de fées, c'est que t'as pas besoin de payer quelqu'un pour récupérer l'histoire.
Et c'est vrai. c'est tout libre, il y a qu'à se baisser.
Alors, après, il faut quand même attendre 2003 pour que la production du film commence.
Ouais.
En gros, c'est juste après qu'il est sorti Big Fish qu'il se met à faire ça. En même temps, pour rappel, on est à peu près à une période où Tim Burton, il sort presque un film par an. Quoi. Mmh. C'est soit tous les ans, soit tous les 2-3 ans, grand max. Il est très productif à ce moment-là.
Je crois avoir entendu dans un podcast sur le cinéma que c'est à partir de Big Fish qu'il commence un petit peu à se perdre aussi, Tim Burton. Ça commence à être un peu plus compliqué pour lui.
Ah, après, ça, je suppose que ça dépend de ce que les gens vont dire. Mais c'est vrai que le succès critique, il me semble que c'est à partir de Big Fish où il va... En même temps que Les Noces Funèbres, il va aussi faire Charlie la chocolaterie. Après, il va enchaîner sur Alice au Pays des Merveilles, ouais. Enfin sur Alice, Dark Shadow, Big Eye, tout ça.
C'est vrai.
Alors, c'est un film Tim Burton, donc c'est notamment lui, par exemple, qui va faire le design des personnages principaux.
Ah bah ça.
Et même si tous les personnages, les personnages secondaires et tertiaires sont totalement designés par Carlos Grangel.
Ok. Rien à voir avec Big Bisou.
Non. Et effectivement.
Ni avec Angèle, d'ailleurs. Pardon.
Et j'ai vraiment eu 2 secondes en te regardant. En fait, je cherchais la blague. La blague
mais enfin,
avec.
Ça va pas mieux.
C'est que je cherchais la blague avec Grangel. Donc je disais.
Non, c'était l'autre.
Et en fait, en gros, il va récupérer les designs que Tim Burton a fait et il va les réadapter pour que ça corresponde pour les adapter au-dessus à un style de marionnette, quoi.
Ouais.
Parce que Tim Burton, il dessine un peu de manière brouillonne et donc lui, c'est de le refaire au propre pour pouvoir faire une marionnette après derrière. Et donc pour le film. Au lieu de se répartir les rôles alors on va dire de manière traditionnelle quand il y a deux réalisateurs, où en gros dans l'idée c'est chacun prend une séquence du film et ainsi de suite, tu continues comme ça. Là, Burton, il est en charge de l'histoire, donc de comment, comment va se dérouler le film, à quel moment vont être les moments émotionnels, comment tu te diriges vers ces moments émotionnels et tout.
Okay.
Et Mike Johnson, qui avait déjà travaillé sur James et la pêche géante ou sur L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'était, il était plutôt en charge du côté technique du tournage. D'accord. Donc c'est lui qui y allait au quotidien tous les jours, aller superviser tous les animateurs.
C'est les mains dans le cambouis, quoi.
C'est ça. En gros, c'était Burton dit moi je veux faire ça, je veux avoir un truc comme ça à la fin, et donc c'est lui qui dit ok, bon, alors il veut ça, donc on va faire s'organiser ça comme ça.
Là,
comme
il
ça.
Est complètement con, c'est pas possible. Il est... ouais.
Sachant qu'en plus, en même temps, c'est ce que je disais, Burton, il est en même temps en train de faire le tournage de Charlie et la chocolaterie.
Okay.
Parce que les deux sortent la même année. Et donc, on retrouve un peu dans l'idée ce qui s'était passé déjà avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, dans l'idée. Après, il a, par rapport à L'étrange Noël de Monsieur Jack, où bah, il n'était pas un réalisateur, c'était juste le producteur, parce qu'il n'avait vraiment pas beaucoup travaillé sur le film. Là, il va quand même diriger les voix des enfin les acteurs pour la voix des personnages au même titre que Mike Johnson. Ça, c'est une tâche qui se répartit à deux. Et il va quand même valider tout ce qui est storyboard avant. Donc, il a quand même un peu plus la main mise que sur L'étrange Noël du Monsieur Jack, où vraiment il était un peu il était totalement lâché le truc et il regardait de loin. Là, il voit quand même le truc, ouais. Mais ça m'embête quand même qu'on oublie un peu Mike Johnson, parce que il a quand même fait, c'est quand même lui qui a fait le plus gros du travail, enfin peut-être pas le plus gros, parce qu'encore une fois laisser de respecter la vision de Tim Burton,
disons. Que je pense que comme l'histoire, la création, les personnages, c'est très Tim Burton, c'est normal que tu te dises l'auteur finalement en tant que tel, c'est Tim Burton, donc c'est lui que tu vas avoir son nom en dessous, c'est l'histoire, c'est de Tim, même si bon il reprend un conte, mais bon il adapte pas mal, j'imagine que c'est pas la même chose exactement, mais c'est vrai que du coup mais dans l'ombre quelqu'un qui a quand même énormément mis les mains dedans et qui a beaucoup bossé, quoi. Donc voilà, il est temps de le dire, on le dit, voilà, c'est dit.
C'est ça. Alors au final, le tournage du... Enfin, le tournage avec des guillemets, hein, mais c'est un tournage.
C'est
déroulé à Londres. Et alors c'est probablement, je paye la preuve, hein, mais c'est très probablement pour accommoder les déplacements de Burton qui tournait aussi...
Il était plus ou moins dans le coin.
Bah c'est ça, il tournait Charlie la chocolaterie à l'ouest de
Bon, Londres, ça va, c'est la stop motion, tu ramènes les marionnettes, ça fonctionne, c'est bon.
Et en gros, il paraît qu'à l'origine, au début du projet, il y avait une petite douzaine d'animateurs. Tu multiplies par 3 à la fin du projet quand même.
Quand même.
Alors... On parle de stop motion, comme d'hab, on va faire un petit rappel parce que on n'écoutait pas les épisodes dans l'ordre. Donc, pour rappel, l'animation stop motion, donc ou l'animation image par image aussi, ça consiste à prendre un objet en photo et après on va le déplacer très légèrement avant de reprendre une nouvelle photo. Ouais.
Et donc, c'est tout un tas de photos successives. Et donc, l'objet donne l'impression qu'il vit.
C'est ça, qu'il bouge tout seul, sans faire magie, comme ça. Et donc, chaque seconde de film a besoin donc, de 24 images pour faire ce
pour faire une seconde, ouais.
C'est ça.
Donc, il faut faire 24 photos.
C'est ça.
Pour chaque seconde.
C'est ça.
Donc, il faut faire beaucoup de photos.
Ouais. Pour te donner une idée...
Kodak, ils aiment beaucoup ce type de film. Kodak. Oh, j'ai 150 ans.
Et en plus, ils étaient chez Canon.
En plus, sur moi, super. Bah, pardon. Alors, rien qui va.
Je suis tombée sur un article qui rentre très en détail sur le truc de Canon, parce qu'ils sont passés au digital à ce moment-là et tout. Ils sont lâchés. Enfin, sur le numérique, pas sur le digital. Digital, ça veut dire... Oui, bah, maintenant, digital, ça a changé. Tout le monde, quand on dit digital, on a compris ce que ça veut dire.
Voilà, polémique.
et donc il y a presque 110 000 images qui ont été prises en photo pour le film. Et c'est alors que le film n'est même pas très long, hein, il doit venir 15 ans.
Je trouve qu'il est assez même court, si tu veux mon avis. Mais.
Et donc tout ça, ça a été réparti sur 55 semaines de tournage.
Ah ouais, ça fait ça commence à faire. 55 semaines, ça fait quoi? Ça fait
un an,
ouais.
À peu près. Un an et 3 semaines. Il y a 3 semaines comme ça.
Et
sachant que pour donner une idée, la scène où Victor rencontre pour la première fois Victoria, il va se mettre à jouer au piano et après il rencontre Victoria, il se parle, ils sont un peu timides, c'était l'un des meilleurs animateurs de la boîte qui était en charge de... Enfin, de la boîte, non, parce que c'était chacun dans leur coin, mais c'était pas un studio comme Artman ou...
T'as bugué.
J'étais en train de dire... Comment il s'appelle? tu vois, c'est pas comme Hardman ou des trucs comme ça. C'était
des voilà, c'est Grombine justement.
C'est ça. C'est un peu c'était, il me semble, des gens un peu pris, des animateurs pris à part.
Qui sont pris à part et qu'ils ont mis un peu ensemble pour faire ce truc-là, quoi. C'est
en fait, pour les marionnettes, ils sont allés voir un vrai studio prévu pour.
D'accord.
Mais pour les animateurs, ils ont juste débauché à gauche, d'accord, à droite et tout.
Ok.
Mais donc ils ont pris donc l'animateur l'un des animateurs les plus forts de l'équipe.
Ok.
Et qui était en charge donc de la scène. Et malgré tout, il a quand même mis 13 semaines à travailler dessus.
Oh la vache, 13 semaines. Ah oui, c'est long. C'est long. Ça doit pas être facile d'être un animateur classique, entre gros guillemets, et de devoir faire de la stop motion. Ça doit être une technique très différente, non ?
Ouais, bah oui, je pense que c'est... J'avoue que je fais ni l'un ni l'autre, donc...
Certes.
L'animation, c'est pas pour moi. Ce qui est ironique quand je sais que j'ai travaillé sur des films d'animation, mais
ce n'est
pas...
Non, mais c'est pas grave, tu es une fraude, maintenant les gens le savent. Oh, je plaisante, arrêtez. Oh là là.
Surtout que moi, je le prends pas mal, hein, parce que effectivement, pour la...
bah, sinon, j'aurais pris le micro dans la gueule, et ce serait mérité.
Mais parce qu'il y a tellement de métiers différents que moi, donc l'animation en tant que telle, je ne m'y connais pas très bien, mais je pense que oui, c'est totalement différent. Bah, c'est typiquement, ouais, il y en a un, c'est du dessin versus du mouvement.
Bah, il faut bouger des trucs, quoi. C'est ça. Après, c'est une science de l'image à la fin, parce qu'il faut quand même, t'as quand même des histoires de cadre et tout ça, mais c'est quand même... c'est bizarre, quoi. Mm. C'est bizarre.
Et donc, résultat, j'en parlais un peu avant, mais donc il y a plein d'avancées technologiques qui ont aidé le film. Vu que miracle, maintenant on peut utiliser des ordinateurs, c'est tout révolutionnaire.
C'est vrai que les appareils photo jetables, c'était un peu chiant, tu commençais à en avoir beaucoup au bout d'un moment.
Et donc, en gros, ça a notamment permis aux animateurs de voir en plus ou moins temps réel les photos qu'ils ont prises, et donc ainsi les assembler, les rejouer, et donc voir un début d'animation.
Ok.
Ce qui fait que.
C'est pas mal, ça.
Bah, c'est instantanément, ils peuvent voir à quoi commence à ressembler leur animation, donc ça leur permet de faire quelque chose de plus fluide.
Corriger les petites erreurs, les machins, etc.
C'est ça, avoir une animation qui est beaucoup plus constante, parce que tu peux tout le temps faire la même chose. Donc,
J'étais en train de penser, je suis désolé, je vais faire une digression, mais les appareils photo jetables, c'est quand même un scandale en termes d'écologie.
Ouais, c'est littéralement. L'écologie, on s'en fout un peu. Ouais.
C'est vrai, mais c'est vraiment un appareil photo que tu prends 12 photos et quand t'as fini, ah bah il est mort mon appareil, et puis tu le jettes, tu peux plus le recharger.
Enfin, mais même c'était un scandale sur plein d'autres trucs, hein, même pas que sur ça, parce que c'est t'as, même, t'as aussi t'as le trois quarts de tes photos. Enfin, moi je sais que j'en ai eu quand j'étais petite, donc j'étais enfant, hein, les trois quarts des photos tu les gardais pas, hein, c'était, t'avais ton doigt devant, c'était flou, t'avais le flash qui éclairait n'importe quoi, c'était penché.
Ah bah c'était un peu, c'était low cost quoi, hein, c'est oui. Ouais, cette digression appareil photo est sponsorisée par Kodak. C'est faux, plus Kodak. Je crois que ça existe encore, hein, ça dure, mais bon, bref.
Je pense que si, ça existe encore. Il me semble qu'ils font des, justement des trucs. Ils sont pas remis au. Comment ça s'appelle ? Pas au truc jetable, mais. Polaroid. C'est pas
Ah oui, Polaroid. Oui. Bah, c'était ça ou le Bitcoin, donc ils ont bien fait de faire ça. Des NFT peut-être. Je suis sûr que Kodak ils ont fait. Bref, on s'en fout, pardon.
toujours pour rester sur les évolutions technologiques, c'est l'un des. C'est le premier film, si je ne dis pas de bêtises, en stop motion qui a utilisé des marionnettes mécaniques.
Ah ouais.
Donc en gros, c'est des marionnettes où tout le mécanisme pour l'animation, les expressions faciales, c'est directement caché dans le visage du personnage et où tu utilises des tournevis. Tu mets un tournevis
plutôt
dans
que
le.
Que changer à chaque fois le visage comme c'est dans L'Étrange Noël où en plus tu passais de l'un à l'autre un peu vite. Je comprends.
C'est ça. En gros, maintenant tu mets un tournevis dans l'oreille ou quelque part et ça te permet.
Si tu me fais le mime devant moi, là c'est très perturbant.
et en gros, ça permet de lever légèrement la boue, le coin de la boue.
Ouais, du coup, tu peux faire plus de transition. Petit à petit, quoi. Ah,
c'est ça, c'est
exactement
pas
mal, ça.
Ou par rapport à L'Étrange Noël de Monsieur Jack, c'est ce que tu disais. Si tu remplaces, tu t'étais une tête sur chaque expression
tête,
faciale,
ouais.
C'est ça.
Et du coup, ça donne un aspect un peu plus saccadé, quoi.
Enfin, saccadé, peut-être pas saccadé, mais moins précis
moins,
sur l'animation.
Ça, moins fluide.
Sachant que tu avais aussi d'autres techniques, comme par exemple, alors ça, c'était après Les Noces Funèbres, hein. Mais tu as par exemple Ma Vie de Courgette, dont on avait déjà parlé, qui utilise une animation où c'est toutes les bouches et les yeux sont en aimant. Et oui, comme ça,
c'est vrai.
C'est moins cher à faire. Si tu remplaces,
c'était très malin, ça. J'ai bien aimé.
Au lieu de remplacer tout le truc.
Alors que ce soit L'Étrange Noël de Monsieur Jack ou donc Ma Vie de Courgette, vous pouvez retrouver ces flancs. Ils sont disponibles. N'hésitez pas à écouter-les. C'est vachement bien. Tout comme Voilà, c'est Gromit. On commence à en avoir fait quelques-uns, des flancs. Hein.
Ouais. Un stop motion, en tout cas. On commence à avoir fait la liste. Hein. et donc, en fait, à ce moment-là, donc, comme je te disais, c'était le premier film à utiliser ça. Il y a quand même, il me semble, des c'est quand même déjà utilisé dans la publicité ou dans les peut-être des courts-métrages, mais c'est le premier film. Parce qu'en fait, c'était encore c'est quand même plus cher à faire que le remplacement parce que ça nécessitait beaucoup de travail. Ça veut dire que tout le poids de la marionnette va être au niveau de la tête, donc comment tu fais que la marionnette elle se casse pas la figure, dès que tu la lâches, des choses comme ça. Mais comme on disait, ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'expression faciale par rapport au truc où c'est prédéfini à l'avance.
Ok.
Au final, le film a coûté 40 millions de dollars.
Oh, ça va.
C'est plus cher que Wallace et Gromit.
Ouais.
Donc, et le mystère du lapin garou, qui est sorti la même année, donc pour rappel, qui a coûté 30 millions de dollars.
Ok.
Donc, tu vois, c'est quand même 10 millions de plus.
Quand même.
Quand tu commences à être sur des 40 et 30 millions de dollars, 10 millions de dollars, c'est quand même.
Ça commence à coûter, oui, oui, c'est pas rien. Hein.
Mais après, ça reste quand même dans la moyenne des films en stop motion. J'ai regardé. Okay. James et la pêche chiante, c'était 48 000.
48 000 balles, oui. Ouais,
c'était les gars, compris. Ils ont fait deux marionnettes et c'est tout. Rien de 48 millions, pardon.
48 millions, c'est cher quand même, James. Hein. Après, il est long comme film, James.
Non, attends, c'est 48 ou c'est 38 ? J'ai pas noté, mais c'était. Non, c'était 38, pardon. C'était 38,
moi,
c'était...
mémoire, vraiment, il est interminable ce film.
Je l'ai pas vu.
Oh, je suis pas très fan.
J'ai déjà vu des extraits, mais j'ai jamais vu en entier. Mais c'était 38 millions de dollars, pardon.
Ok, d'accord.
Coraline, par exemple, c'était 60 millions de dollars.
Il y a des gens qui sont très déçus que ce soit pas Coraline qui ait gagné le sondage, sache-le. Ouais. Des gens que ça fait deux fois, peut-être, mais il y a aussi des gens qui nous soutiennent et qui ont dit ça fait deux fois que vous faites un sondage Halloween, ça fait deux fois que je sais pas, Coraline qui gagne, marre.
C'est ce que je t'ai dit. L'année dernière, Coraline a fini deuxième, cette année, Coraline a fini deuxième.
Bah ouais. Alors là, c'était deuxième égalité avec beaucoup, hein, parce que tout le monde était deuxième quasiment. Mais...
Et donc le film en a quand même rapporté un peu moins de 120 millions, avec 118 millions.
Pour un budget de 40, bah c'est bien, c'est propre ça.
C'est ça, le film est largement rentable.
Bah super, on est content pour lui.
Mais si on compare à un Wallace et Gromit, ça peut paraître un peu décevant.
Ah ouais ?
Parce que Wallace et Gromit, ils ont fait 192,6 millions de dollars.
Ah oui, c'est vrai qu'il avait bien marché Wallace.
Donc, ouais, donc il a fait presque 70 millions en plus, quoi. Même plus de 70 millions en plus.
Ok.
Donc bon, c'est je pense que c'était un
poil
décevant.
Succès, mais par rapport à l'autre, j'aurais aimé.
Tu vois, c'est Tim Burton, on aurait peut-être aimé que s'il fasse un peu plus, surtout qu'à ce moment-là, il était vraiment. Ça marchait bien. Après,
je te dis, c'est le début de la fin.
Le film a super bien marché en France.
Okay.
On est le premier marché hors États-Unis, enfin hors Amérique.
Cocorico ou pas ?
J'ai marqué après Cocorico dans mes notes. Donc...
Comme quoi ?
Avec un box-office presque de 9 millions de dollars, ce qui correspond à 1,4 million d'entrées en France.
D'accord, je comprends.
Le film a été nommé aux Oscars du meilleur film d'animation en 2006.
Ah. Mm-hmm.
Tu te rappelles de l'autre film qui est sorti avant ?
Bien sûr que oui.
C'est Wallace et Gromit qui a gagné.
Voilà.
Comme je disais,
c'est vrai qu'il a eu l'Oscar.
C'est vraiment pas de chance. Hein. Les gars, ils sont tombés sur l'année où Wallace et Gromit, ils ont tout fait mieux.
Est-ce qu'on considère que Wallace et Gromit, c'est mieux que... Que les noces funèbres, ah, je sais pas.
Bon, on peut en parler après.
On peut en parler après, c'est
pour
vrai.
Pour pas spoiler notre avis.
C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Bah écoutons, faisons la transition directement. Parce que, en résumé, les noces funèbres, ce sont des vivants mortellement chiants et des morts pleins de vie. Et c'est le monde des pesés, c'est le monde des opposés ou bien c'est carrément le upside down, j'ai pas raison, la team. C'est aussi Victor, un type qui de nos jours serait TikToker sans doute. Et ouais, la team, je vous raconte pas la dinguerie, j'ai épousé une meuf morte sans faire exprès. Oh là là, vous y croyez ou pas? En plus, la meuf, c'est genre Emily in Paris. Je repars à Dubaï avec ma go. Ah, si finalement je reste avec la morte, et puis je prends les deux, de toute façon, on n'a qu'une vie. Et d'ailleurs, bénéficiez du code promo Victor Chien Mort pour avoir un an de croquettes gratuites. Ciao, la team. En plus, Emily, elle a un secret, et Victoria, elle en a pas. Alors que Victoria Secret, je trouve que ça sonne mieux à l'oreille.
Non, mais... C'est quoi, en plus, Emily, elle a un secret, c'est elle est morte ? C'est ça, son secret ?
Ouais. Puis qu'elle a été tuée par un mec.
Ouais, c'est pas vraiment un secret, c'est vraiment, on présente Emily, on dit bonjour, elle a été tuée.
Oui, mais on sait pas par qui. C'était pour faire la blague, ça. Les noces funèbres, c'est du flan.
Allez, attends, désolé, mais si ça doit être un TikToker, je pense pas que ça serait le genre de TikToker. Non, ça serait le genre... Ça serait le genre qui fait soit du booktok et qui te raconte des petits livres qu'il a lus ou un truc comme
c'est
ça.
C'est vrai que ce serait un peu ça, oui.
Mais par contre, je le vois très bien de TikToker parce qu'il a bien la tête d'un quelqu'un qui aura du succès sur TikTok.
On est d'accord. Moi, ça m'a marqué tout de suite. Les noces funèbres, c'est du flan ou c'est pas du flan, Pauline ?
C'est pas du flan. Mais
tu le dis avec un aplomb.
Ah non, mais c'est un film, je l'ai regardé un nombre incalculable de fois quand j'étais petite. Ah, mais moi, entre l'étrange Noël de Monsieur Jack et les noces funèbres, c'est deux films qui ont fait mon enfance. J'aimais bien un stop motion, ok ?
Il paraît.
J'aimais bien un stop motion et les morts vivants, faut croire. et donc, ce film, je. Je l'ai vu plein de fois, je l'ai revu là, j'étais très contente de le revoir. Je passe un très bon moment devant, je le trouve très bien. Et sur la question, est-ce qu'on préfère à Wallace et Gromit ? Alors c'est peut-être parce que Wallace et Gromit, j'ai découvert la première fois l'année dernière, c'est celui que je connais beaucoup, vraiment très bien.
A priori.
Mais je préfère quand même Les Noces Funèbres. Mais après, ma Wallace et Gromit est très bien, je dis pas le contraire.
Oui, on en va passer un bon moment quand
même. Mais je préfère quand même Les Noces Funèbres parce que l'histoire d'amour, bah oui, d'attention, bah
bien
des
sûr.
Morts,
bien sûr, on va discuter de tout ça. Mais bon, pour ma part, non, c'est pas du flan. De toute façon, j'ai pas le droit parce que vraiment, ma chère et tendre qui adore Tim Burton, qui adore L'étrange Noël de Pinocchio Jack, elle m'a dit : tu sais que Les Noces Funèbres, c'est avec lui que j'ai découvert Tim Burton. Donc autant dire que si je raconte des trucs qu'il faut pas, je me fais déboîter. Bref.
Ça se trouve, moi aussi, je vais me faire déboîter.
Là, t'as dit que t'étais fan, donc a priori, ça va.
Oui, mais ça se trouve, dans le contexte, elle va savoir. J'aurais fait une petite erreur quelque part.
Ça, c'est possible. J'aurais voulu qu'elle participe en vrai, mais là, ça n'était pas possible. La technique est incroyable et c'est, je pense, le film le plus Burton de tous les Burton, en vrai. Je trouve qu'il est très, très Burton. Mais bon, je trouve quand même qu'il y a des défauts. Je vais faire attention en les disant. Mais je trouve quand même qu'il y a des défauts. Mais non, mais c'est pas du flan. Évidemment, c'est pas du flan. Mais pour vous aider à déterminer si Les Noces Funèbres c'est du flan ou si c'est pas du flan, parlons-en plus en détail.
Si je touche la flamme d'une bougie, je me fais pas mal. On peut même me poignarder, ça m'est égal. Oui, mais savoir que son cœur bat, que je suis morte et pas elle, ne m'empêche pas de souffrir. Ne dites pas que je délire, car je sens poindre en moi des larmes de rêve.
Le film commence. Le film s'ouvre, c'est un podcast. Le film commence en fait d'une façon que je trouve qui fait beaucoup penser pour le coup à L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Et il garde pas forcément ce truc là. C'est la ville. En fait, t'as une petite visite de la ville qui te montre un peu des personnages haut en couleur, diraient les gens chiants. Ils sont tous un peu chelous, ils sont tous un peu avec leurs habitudes, la petite vieille, le machin, etc. T'as plein de petits personnages mis en avant comme ça. Et après, t'as beaucoup de personnages dans ce film, de personnages primaires, secondaires, tertiaires, mais t'as plus trop le peuple autour. Ça disparaît un petit peu et t'as ce truc là. Mais c'est vrai que t'as cette intro sur le coup, j'ai vu ce truc là avec, en plus, je crois que ça chante à ce moment-là. C'est très très.
Non, d'abord, ça a que un.
C'est juste un blanc avec la musique.
C'est juste de la musique et c'est après
c'est générique,
ça arrive.
Genre.
Ouais, c'est ça. Et après, à la fin du générique, c'est là où la musique commence sur Belle journée pour merveilleux mariage.
Voilà. Et bah, du coup, ça m'a bien fait penser à la première musique de L'Étrange Noël, dont je ne me souviens plus, mais que je connais par cœur.
Bienvenue
à. C'est ça, Halloween. C'est... voilà. Ça m'a fait énormément penser à ça. Et comme en plus, vraiment, t'as les personnages. Enfin, c'est full Burton. Les personnages, oui. ils ressemblent énormément dans leur design, dans leur façon d'être, de faire. Et ça m'a grave fait penser à ça. Voilà. Mais c'est un film, je l'ai dit, qui est très très Burton. Hein. Je sais pas si on veut tout de suite parler de ça, mais.
De toute façon, on pourrait rester aussi sur le sujet à la fois Burton et à la fois musique. Bon, forcément, qu'est-ce qu'on retrouve ? Danny Elfman à la musique.
Oh, bah
ça étonne quelqu'un ?
Non.
Bon, voilà.
Mais la musique est. Tu sais quoi, pour une fois, on va parler de la musique très tôt. La musique, je la trouve très chouette. Voilà.
Oui.
Parce que. Vas-y, pardon.
Bah, en fait, je la trouve très chouette. Et ça vient de quelqu'un qui connaît presque toutes les musiques par cœur.
Mm-hmm.
Et sont quand même moins cultes que L'Étrange Noël de Monsieur Jacques.
Oui. Je suis d'accord.
Où tu vois, à la limite, la musique qui chante pour raconter l'histoire d'Emily.
Ouais.
À part cette musique-là qui, je pense, pourrait être un peu culte en dehors, toutes les autres, je pense que tu les passes dans un blind test.
C'est celle du thème principal qui revient régulièrement.
Oui, en fait, c'est presque
c'est
celle-là.
Et en fait...
Non, moi, Moi, je te parlais vraiment de la musique de tu sais, quand ils présentent Emily, qui font « mort, faut bien y passer ».
Ah oui, d'accord.
Et je te parlais pas de la musique.
Ah, j'y suis. Là, j'ai eu l'impression que... Mais c'est Danny Elfman qui en chante, hein, je ne vois que ça. Mais...
Surtout qu'en plus, c'est vraiment Danny Elfman qui chante en anglais.
Je suis pas très étonné parce qu'il aime bien faire ça. Il aime bien faire
ça. À la base, c'était pas prévu.
Ah ouais ?
À la base, c'était... ils essayaient de trouver quelqu'un pour faire la voix. Et au bout de genre de 26 ou 27e personne, ils font, on n'arrive pas à trouver quelqu'un.
Ouais, Danny. Ouais, d'accord, ouais, ça va.
C'est exactement ça. Cette team, il a fait, tu veux pas le faire ? Il fait, ouais, mais on cherche quelqu'un avec une voix rocailleuse. J'ai pas une voix rocailleuse. Il fait, bon, vas-y, fais un effort. Résultat, il a chanté. Et à chaque fois, il disait qu'à chaque fois qu'il finissait de chanter, il avait la voix enrouée pour le reste de la journée et qu'il a dû enregistrer son genre 2 ou 3 jours. Et donc,
prends une pastille, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Prends ta Valda. Mais non, sur la musique, il y a un truc qui m'a frustré. Un truc qui m'a énormément frustré. Les notes qu'ils jouent sur leur piano sont pas toujours les bonnes. Il y a des fois oui, il y a des fois non. C'est-à-dire que les mouvements correspondent, mais c'est pas sur les bonnes touches. Et il y a des fois où ils reviennent sur les touches et si ça correspond. Et donc je sais pas ce qu'ils ont fichu, mais ça m'énerve. Voilà.
Bah, pourtant, Danny Elfman a écrit en premier le thème de Victor. Donc le thème de Victor, c'est le thème qu'il fait justement, j'en parlais tout à l'heure.
D'accord.
C'est quand il arrive de la première fois et qu'il joue sa musique sur le piano, c'est son thème là, qui en fait devient presque le thème principal du film.
Et j'adore leur duet de piano, les deux qui jouent en même temps. Là, moi j'ai un kink piano, je veux dire. J'ai un petit kink piano et ça marche bien.
Et donc normalement, bah, ils ont fait en sorte justement de faire c'était la première chanson, enfin la musique qu'il a fait pour le film, okay. Parce que pour que justement les animateurs puissent avoir
pour qu'ils puissent se baser dessus. D'accord. Écoute, je sais pas ce qu'ils ont fichu parce qu'ils ont les bons trucs, mais c'est pas les bonnes touches. C'est dommage.
Bah, c'est peut-être que ça rendait pas très bien. Tu sais, des fois, si peut-être. Tu fais peut-être que les vraies notes c'était trop proche de la caméra ou trop loin.
Ou que ils ont baissé de plusieurs octaves pour que ça fonctionne. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas.
Je sais pas, mais tu vois, c'est peut-être un truc, en fait, quelque chose en mode, bah, histoire que ça rentre bien sur le piano, parce que certes, faut que ça fasse les vraies notes, mais faut aussi que ça rentre.
Octave, ça n'a aucun sens, octave. Mais ok, bon, c'est un détail. C'est moi qui suis chiant. Insultez-moi, vous aurez bien raison. En tout cas, j'aime beaucoup la musique. Effectivement, je préfère la bande originale, donc pas les chansons en elles-mêmes, mais vraiment les musiques instrumentales que je trouve vraiment chouettes. Les chansons sont chouettes, hein, mais c'est vraiment la musique sur laquelle je me suis dit vraiment il y a des bonnes séquences. Je sais qu'il y a le passage notamment de la poursuite avec Mélanie Ravenswood là, donc avec Emily, qui je trouve fonctionne très bien quoi.
Oui, la première juste au moment où il vient de se marier, mais même la musique juste avant quand il essaye, quand il fait ses vœux. Quand tu prononces ses vœux de mariage, t'as toute une musique qui monte à ce moment-là pour la scène et ça marche très bien. Et je suis très frustrée parce que j'ai découvert ça trop tard. Mais sur mon DVD, pendant que je regardais les bonus qui m'ont servi à faire le contexte, je suis tombée sur film. Attends, je peux passer en anglais, donc c'était en gros. Parce que quand je le mets sur mon truc VLC, il ne me demande pas de choisir la langue, donc ça me met forcément en anglais, bref. Et donc c'était marqué genre un truc du style film avec que la musique. Et j'ai fait. Attends quoi ? Et effectivement, mon DVD, j'ai une piste où c'est que la BO. Rien
c'est
d'autre.
Bon, ça.
Il n'y a pas un seul bruitage, il n'y a pas, y a pas de voix et tout. Même les paroles ne sont pas chantées, c'est full instru.
Trop bien ça.
Et donc j'ai ça sur mon DVD.
Si ils faisaient ça sur les DVD Star Wars, je serais trop refait.
Bah, j'avoue que j'ai résultat, j'ai pas trop eu le temps d'écouter, mais j'étais en mode, mais c'est trop bien comme idée.
Ouais, c'est super idée. J'avoue.
Et je trouvais ça. Voilà,
rigolo.
Comme ça plus
concept.
Souvent, c'est marrant. C'est
bah
bien,
ouais.
Ça permet de mettre en avant le travail de la musique et de voir justement à la fois les scènes où, en plus, au moment où j'ai découvert l'option, enfin, au moment où je l'ai activée, c'était une scène où il parlait pas et donc ça m'a permis tout de suite de rendre compte que, ah bah tu vois, là, parce que c'était pendant la discussion des parents de Victor et de Victoria où ils se parlent et qu'ils sont pas contents et tu vois qu'il y a pas du tout de musique à ce moment-là et donc ça permet aussi de mettre en avant les moments où il y a pas
les
de
moments
musique.
Où il y en a pas et des fois on se rend même pas compte
alors que
c'est important quoi. C'est important aussi. J'ai noté que c'était un truc que j'avais bien aimé en musique aussi, c'est la séquence musicale avec les squelettes qui bouge bien. Alors, à quoi ça correspond
je c'est justement,
plus.
Je pense, la musique « Mort, mort,
ça doit être passé. » Eh ben, écoute, je l'ai bien aimé, voilà.
Ah, bah celle-là, je l'écoutais. Quand j'étais petite, je mettais mon DVD et j'écoutais que ça. Hein. De toute façon, c'était généralement ce que je faisais avec mes DVD, c'est je les prenais et j'écoutais que les musiques et après...
Oui,
et
évidemment.
Après, on se demande pourquoi je connais très bien, je suis très forte en blind test.
C'est sûr que le blind test, ça va être derrière. Sûr. Donc, comme je disais, c'est le film Burton 2000. Hein. C'est déjà tous les personnages, on l'a dit, qui sont donc très hauts en couleur. et puis, il y a ce côté, j'en ai parlé un petit peu pendant le contexte, où le film est presque en noir et blanc. Genre, c'est plus terme que les films Harry Potter après le 3, quoi. Harry Potter après le 3. c'est vraiment, c'est gris comme on n'a jamais vu ça, quoi. Et bah, la couleur arrive au moment où on est dans le monde des morts, parce que bah, le monde des morts, il a l'air grave plus sympa que le monde vivant. C'est vraiment Tim Burton à 1000%, ça. C'est ce qu'il adore. Hein.
En fait, pour te donner une idée, pour en fait la couleur du monde des vivants, ils ne sont pas partis sur du noir et blanc ou sur du sépia. Mais en fait, ils se sont basés sur une palette de couleurs qui ressemble à un daguerréotype. Donc, tu sais, c'était les premiers trucs, les premières photos dans l'idée.
D'accord.
Matez pas, s'il vous plaît, si j'ai dit des bêtises. Il me semble que c'est, en gros, c'est un peu l'ancêtre des photos ou un truc comme ça.
Okay.
Et où c'était justement un peu du noir et blanc, mais tu vois, c'est pas du noir et blanc.
Mais pas complètement, avec un petit peu. En fait, c'est très, hyper. C'est désaturé,
ça, c'est,
quoi.
Ouais, c'est très, très, très désaturé. Et donc, pour faire ça, bah, ils ont pas juste fait leur personnage et mis un filtre par-dessus. C'est vraiment toutes les marionnettes, tous les décors et tout ont été peints. Pour faire un.
Pour avoir cet effet-là, etc. Quoi. C'est pas un filtre Photoshop, c'est ça que t'es en train de me dire.
C'est ça, c'est vraiment, ils ont fait tout un travail dessus pour que les personnages rendent bien. Enfin, justement, rendent pas très bien. Enfin, ça donne pas envie.
Oui,
mais parce que justement, ils disaient que bah, le monde des vivants était beaucoup plus dur à faire que le monde des morts, parce que le monde des morts, c'était marrant, c'était coloré, tu pouvais t'amuser et tout. Le monde des vivants, il fallait que ce soit strict et tout.
C'est strict, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ouh.
Et c'est justement comme, c'est pour ça qu'ils ont déplacé le film, parce que la base, donc, comme je disais, c'était un conte juif des années, du 16e siècle.
Ouais.
Et en gros, ils trouvaient, je ne suis pas très d'accord avec ça, mais Burton disait que si on respectait l'aspect plutôt juif de l'histoire... ça ne rendait pas le conte universel, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont placé à l'époque victorienne, pour que ce soit plus universel.
Oui, ouais.
J'ai lu le conte d'origine.
Ouais.
À part le fait qu'à un moment ils disent des mots en hébreu, et donc j'ai pas compris ce qu'ils disaient, et que c'est un rabbin au lieu d'un prêtre. Bon, ben,
ça change tout, Pauline.
En vrai, l'histoire reste quand même assez universelle. Hein,
ça marche
juste,
bien, ouais.
C'est juste, enfin, à la fin, à la limite, là, c'est pas de la même manière où ils ont réussi à terminer l'histoire, parce que normalement, dans le conte de fées, dans le conte de fées, c'est quelqu'un qui était sur le point de se marier, encore une fois. Et pour la blague, il est avec ses frères, il balade dans la forêt, il voit un arbre qui ressemble. Non, c'est même pas un arbre, c'est vraiment une main de mariée qui sort du sol. Et pour la blague, il dit bah tiens, attends, je vais lui passer en faisant des vœux.
La bague au doigt.
C'est ça. Et mais non, tu peux pas. Et le lendemain, quand il veut se marier, non, tu peux pas te marier. T'es déjà marié, t'as la morte qui arrive et qui vient.
Je suis mangeur.
C'est ça. Et le rabbin, il dit attends, est-ce qu'il y a un précédent pour ça? Non, il n'y a pas de précédent pour ça. Bon, on va faire un précédent. Est-ce que tu devrais être marié? Et elle dit il a répété ses vœux comme il faut. Ah, est-ce que t'avais bien deux témoins? Oui. Ah, et après, ils font oui, mais attends, plot twist. Ça fait depuis leur naissance. Que l'équivalent donc de Victor et Victoria ont été promis l'un à l'autre.
Ah bon, oh, c'est nouveau ça.
Parce que eux dedans, c'était un truc où c'était deux familles qui s'entendaient très bien. Et ils ont dit si nous on a un garçon et toi t'as une fille, et ben on va les marier comme ça.
D'accord. Donc c'était déjà prévu de longue date.
C'est ça. Et donc résultat, comme c'était déjà prévu de longue date, et ça peut pas. C'est celui-là qui a pu prévoir par rapport à l'autre.
Donc c'est celui-ci qui est gardé quoi.
C'est ça.
Ah, donc et la fin n'est pas la même effectivement.
Bah non, parce que enfin si c'est Victor et Victoria qui finissent ensemble.
Oui.
Donc c'est comme plus ou moins comme
C'était ça aussi.
Bah dans le film, t'as pas vu le film.
Si, mais dans le film oui.
Oui, mais c'est dedans, c'est ce que je te dis.
Ah, mais j'ai pas compris sur le conte moi.
C'est Victor et Victoria qui finissent, qui se connaissent depuis longtemps, qui c'est ce que je dis.
Donc effectivement, donc on revient à la même chose.
C'est ça. C'est juste que c'est pas de la même manière, mais bon, en vrai, je trouvais que c'était plutôt universel, mais ça à l'époque victorienne. Bon,
eh ben écoute, ça fait des jolis décors.
De toute façon, Tim Burton est mettre de la diversité dans son film MDR, c'est quoi?
Allez, boum.
On rappelle que genre, l'un de ses premiers personnages noirs, c'était dans Peregrine là, et des enfants.
Ah oui.
Et c'était le méchant de l'histoire.
C'est
bonjour.
Vrai. Oui, mais c'était, comment il s'appelle? Il est cool, l'acteur.
Oui, c'est...
Samuel L. Jackson.
Oui, voilà.
Mace Windu.
Et donc bon, l'idée donc de placer ça à la base à l'époque victorienne, c'est quand même aussi pour dire à la fois donc rendre visiblement le truc plus universel et parce qu'ils trouvaient que l'époque victorienne c'était quelque chose qui faisait plus strict, plus renfermé, plus froid et donc ça correspondait.
Ça je peux entendre.
Ça allait bien avec justement ce qu'ils voulaient. Par exemple, tu pouvais pas trop le faire à l'époque moderne parce que t'avais moins ce côté piégé dans le monde.
Oui, c'est sûr.
Tu vois, c'est tes propres les
règles. Non, c'est vrai. Là, tu sens que t'es dans un monde où tu peux pas dépasser quoi.
C'est ça.
Très Burtonien aussi, je termine avec ça. À la fin, là, t'as l'enfant qui va voir le mort et qui crée un genre de pont. C'est les morts, ils sont sur le point d'attaquer les vivants sont un peu bloqués, ils ont tous un peu peur. Et puis finalement, t'as un enfant qui s'avance pour faire un peu le pont, pour faire un peu le moi, je te comprends, je suis ami avec toi.
Pour moi, les morts, ils essayent pas d'attaquer les gens. Hein.
Non, mais je veux dire, les autres ont le sentiment qu'ils sont en train de faire attaquer. C'est ça que je veux dire. Et c'est donc t'as vraiment un gosse qui se rend compte et qui va. Et ça, je trouve aussi que c'est un peu Burton dans. On est un peu dans ces kinks, quoi.
De toute façon, rien que le personnage principal qui est un jeune timide qui ne veut pas parler aux gens et qui ne sait pas.
Et puis Emily aussi, elle est full.
Dans le kink ultime Tim Burton, c'est les acteurs en anglais. On a un Johnny Depp sur Victor et un Helena Bonham Carter sur.
C'est que j'ai trouvé
sur Emily.
Deux points communs avec Pirates des Caraïbes. Parce qu'effectivement, donc Johnny Depp, ça fait un point commun. Mmh. T'as aussi le début du film où la personnage principale est sur le point de se faire étouffer par un corset. Et ça fait deux. Voilà.
C'est vrai.
On prend. Par où tu veux qu'on continue ? L'animation, le personnage.
L'animation.
L'animation. Alors je crois que l'animation, tu nous as préparé une petite surprise pour Patreon en plus.
Oui. Parce que, en fait, comme j'ai dit justement, j'ai regardé tous les DVD.
Ouais.
Enfin, tous les DVD, tous les bonus du DVD.
Et donc, t'as appris plein de trucs.
C'est ça. Et alors, après avoir répété 15 fois que vraiment, on a de la chance d'avoir Tim Burton pour faire le film en stop motion, parce que la stop motion est en train de mourir à cause de la 3D, alors qu'il n'y a jamais eu autant de films en stop motion.
Il y avait les lapins garous 6 mois avant.
Bah, c'est ça, après t'as eu Coraline, t'as tous les films de Wes Anderson.
Enfin, vraiment, ça va, hein, la stop motion, je m'inquiète pas trop. Hein.
Bah, c'est ça, et donc vraiment, ça va voir tout le truc où ils font la 3D.
Mais quand même, heureusement qu'il est là. Hein.
C'est ça, l'image de synthèse, ça a tué la stop motion, et je fais. Pour moi, stop motion est devenu plus grand public, limite après les années 2000 qu'avant.
La 2D traditionnelle, la plus pris cher pour le coup.
Oui, c'est ça, ça je suis d'accord par contre. Mais à part ça, tu avais aussi quand même des choses intéressantes sur les marionnettes. Et donc, résultat, j'ai tout. Comme pour ne pas faire un contexte trop long, parce que j'essaye maintenant de ne pas faire des contextes trop longs. Je me dis que peut-être il y a 2-3 personnes sur Patreon qui vont se dire « Oh super, c'est notre moment
!» Tu vas nous faire un petit flanc détail. On va faire ensemble un petit flanc détail où on reviendra sur l'animation et sur certaines techniques et des choses comme ça, j'imagine. C'est ça l'idée ?
C'est ça.
Et ben, rendez-vous sur Patreon pour ce genre de truc. Mais déjà, ce qu'on peut dire de l'animation, ce qu'on doit dire, c'est que « Oh chouette, de la stop motion, c'est ce que je préfère !» Pour ceux qui ne savent pas, je suis pas le plus grand admirateur de la stop motion. Après, il faut reconnaître quand même, c'est stylé. Quand même. Tous les personnages, grâce à ça, ils ont l'air très réels en fait. Hein. C'est le principe, hein. C'est que ils ont l'air organiques, selon ce fameux mot dont je ne suis pas sûr qu'il va y dire quelque chose. C'est de la vraie texture, quoi. C'est très réaliste. Et rien que ça, il faut reconnaître, si, c'est bien fait. Et c'est de la jolie stop motion. C'est bien fluide. C'est hyper, hyper propre. Il y a des très jolis mouvements. Emily, quand elle danse au clair de lune, c'est magnifique. C'est particulièrement magnifique.
Et tu parlais juste du moment des trucs réalistes, où c'est justement une des choses, par exemple, où je parlerai plus en détail dans le Patreon.
Ouais.
Et c'est par exemple, entre autres, pour essayer de garder ce côté réaliste, ils ont filmé des flammes de bougies ou des choses comme ça pour pouvoir mettre ça directement dedans.
D'accord.
Pour pouvoir faire, en gros, les flammes qu'ils ont fait, c'est tricher à la fin en effet numérique, mais c'est quand même des vraies flammes qu'ils ont filmées au lieu d'utiliser des images de synthèse pour reproduire.
Donc t'as des petits trucs de live action quand même.
Ouais.
Ok.
Et je me suis demandé si justement la fumée, j'ai pas eu la preuve de ça parce qu'ils ont juste dit, il y a des trucs qu'on a filmés en vrai, par exemple la flamme de la bougie, mais j'avais vu la fumée et je me suis dit, mais comment tu peux avoir de la fumée autant, parce qu'elle faisait très réaliste, ça faisait pas de la fumée justement en image de synthèse.
C'est toi qui expliquais que faire de la fumée c'est pas facile en plus.
Ça peut être vite chiant. C'était dans la scène où justement t'as Emily qui apparaît la première fois, tu sais, où elle a encore son voile et qu'elle s'avance en mode un peu presque zombie,
presque
tu vois,
zombie,
où elle fait ce moment où elle fait exprès de faire peur et tout. C'est à ce moment-là, quand elle marche, c'est un moment, t'as un plan où tu vois ses pieds et elle est en train de marcher et tu vois qu'il y a de la fumée à ses pieds. Et je disais, c'est fait pas de l'image de synthèse, mais c'est tellement fluide, ça peut pas du tout être de la stop motion. Tu peux pas faire de la fumée en stop motion, c'est pas possible. Tu peux pas faire de la, et je me suis dit, mais c'est filmé, mais c'est... Et donc après avoir vu ça, je me suis dit, peut-être que justement ça fait partie des trucs qu'ils ont filmé
un truc en live, c'est possible. Je trouve, alors tu expliquais qu'ils ont leur nouvelle technique pour les visages, je trouve qu'ils sont pas ultra expressifs leurs visages par rapport à justement un étrange Noël qui presque c'est caricatural. Je pense aux mères, le machin, etc. Ils ont tous des sourires qui vont jusqu'aux oreilles, quoi. Là, je trouvais beaucoup plus gentil sur l'animation des visages, et du coup je trouve que c'est peut-être un petit peu moins
Je pense qu'ils ont peut-être voulu faire un côté justement plus réaliste, je sais pas.
Sans doute.
Ou peut-être que ils avaient plus de mal avec les nouvelles expressions faciales, mais après je sais pas si tu vois, tu pouvais avoir un truc aussi peut-être pas caricatural, mais un peu fou que l'étrange journal de Monsieur Jack. Quoi.
Ouais, c'est, là c'est peut-être...
Ça correspond pas à l'ambiance du film. Peut-être à la limite dans le monde des morts, mais encore...
Comme c'est beaucoup ça mon référentiel, c'est vrai que j'ai tendance à... Ouais. J'entends ce que tu veux dire.
Mais après, je suis quand même d'accord. Moi, celle où je trouve qu'il souffre le plus de ça, c'est Victoria.
Ouais.
Où je trouve que par moment, elle, est elle a l'air...
Pincée.
Ouais, elle a l'air tout le temps un peu... perdu.
C'est vrai.
Où tu la vois tout le temps, t'as l'impression qu'elle est, quand je parle juste vraiment de l'animation, je parle pas du personnage en lui-même, hein, mais t'as tout le temps l'impression qu'elle est pas là dans le film, tu sais, qu'elle est tout le temps en mode spectatrice, qu'elle fait oh, et qu'elle, tu sais, elle ouvre la bouche un peu en disant oh.
Oui, c'est vrai. C'est avec vrai. T'as raison. Avec des grands yeux.
Comme elle a tout, comme forcément le design fait que tous les personnages ont des grands yeux et elle a une toute petite bouche et tout, et t'as l'impression qu'elle est tout le temps perdue et qu'elle fait oh, oh, ok.
Tu sais que j'ai pas noté grand chose sur Victoria, je me rends compte, je trouve qu'elle a pas énormément de présence par rapport aux autres personnages. Pour une personnage qui serait sans doute un personnage principal, j'ai noté des trucs sur elle, mais plus dans le prisme de sa relation avec Victor, éventuellement avec Emily, mais en elle-même, il manque. En fait, c'est un personnage qui est hyper intéressant au début, moi je la trouve hyper rafraîchissante, etc. La façon dont elle se présente, elle fait du piano, machin, c'est chouette. Et. Je sais pas, elle s'efface assez vite.
Ouais, bah en même temps, là, on ne voit plus vraiment la moitié du film. Quoi.
Ben, c'est ça.
Et... Après, elle prend quand même des décisions pour une femme de l'époque victorienne. Elle a quand même, tu vois, elle est quand même assez active. Où tu la vois, elle s'enfuit par la fenêtre pour essayer d'aller prévenir le prêtre, pour aller essayer de sauver Victor. Tu vois, elle reste pas quand même enfermée dans sa chambre à rien faire, mais. C'est vrai qu'elle est un peu moins importante du trio de personnages
oui,
principaux.
Forcément.
C'est clairement celle des trois qui brille le moins. Quoi,
Forcément. Alors, bon, t'as noté bien évidemment que Victor et Victoria, qui sont dans l'époque victorienne, truc de fou. Mais tu sais que Victor Victoria, m'a-t-on dit, c'est aussi un film. Un film qui s'appelle Victor Victoria.
Ah, ça,
et que donc, c'est une référence à ce film qui est réalisé, qui est sorti en 82, qui est lui-même un film qui date d'il y a plus longtemps, qui était allemand. Voilà, ça, je l'ai su grâce à madame qui m'a dit qu'elle me frappait si j'avais pas au moins un minimum de référence culturelle. Donc, j'essaye d'être au niveau. C'est faux, bien sûr. Non, mais voilà, j'ai appris ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté Victor Victoria et puis finalement, Emily, bon, c'est rigolo au début. Tu fais, bon, vous êtes pas trop fait chier. Mais tu te doutes qu'il y a quand même quelque chose derrière. Victor, et si on en parlait un petit peu, il est pas très gentil avec Emily au début.
Bah, en même temps,
En même temps,
il voulait pas s'épouser quoi. Il est en mode.
Ouais, mais après du coup il est pas très gentil avec Victor. Genre, en fait Victor, il y a ce côté où il a deux femmes potentielles et il va se dire ouais avec l'une. Oh finalement l'autre. Bon finalement l'une. Alors à chaque fois il est plus ou moins bloqué. Mais enfin il se bat pas non plus beaucoup.
J'avoue que son revirement de fin du film, quand à la fin il dit finalement ah non finalement je veux me marier avec Emily, est bizarre.
Au début
je comprends pourquoi il veut pas se marier avec Emily, qui
oui.
Bah parce que il est amoureux de Victoria.
Et pour moi il aurait dû rester plus ou moins là-dessus quoi. Enfin, c'est bizarre. Toi.
Et
déjà il est amoureux au premier jour comme ça, bon sur un mariage arrangé, bon.
Ouais.
Bon.
Le film dure 1h15, t'as pas le temps de.
Ouais, t'as pas le temps, ouais.
Mais bon, c'est pour montrer que c'est un coup de foudre. Après, le fait que ce soit un mariage arrangé et qu'ils s'aiment, bon.
Bah tant mieux, hein.
C'est ça.
Le beurre, l'argent du beurre, comme on dit.
Ah, justement, il est pas vraiment de beurre.
Il y a plus
hein,
de pognon,
le...
il y a plus rien.
Il y a le beurre peut-être, mais pas l'argent du beurre,
non,
c'est sûr.
Non, c'est
mais à la limite, bon, tu vois, c'est un peu. Leur amour, elle est un peu. Cliché, on va dire, parce que tu vois, c'est en un regard, ils s'aiment, mais tu comprends que d'un côté, ils étaient tellement effrayés l'un l'autre, et au final, ils sont un peu en mode oh, ça va, en fait, t'es bien, tu m'attendais à quelqu'un de pire et tout, et tu vois, tu sens qu'ils sont un peu. Les deux, ils sont un peu naïfs et innocents, donc tu vois, ça va bien ensemble. Donc, je comprends pourquoi il est amoureux d'elle, mais donc je comprends pourquoi, tu vois, il est un peu méchant avec Emily.
C'est
parce
vrai.
Qu'il est en mode
laisse-moi juste.
Désolé, mais moi, je suis vivant, j'ai envie de. Parce que. Là, dans notre monde, c'est tout. C'est montré d'une certaine manière où c'est mignon, hein, mais imagine dans la vraie vie, t'es avec un cadavre qui est à moitié squelette.
C'est pas fou, hein.
C'est quand tu te remets vraiment de son point de vue, de lui, ce qu'il voit, c'est pas une madame qui a l'air un peu mignonne, hein. C'est un truc, c'est vraiment un squelette à moitié décomposé qui a un asticot qui vit dans son œil. Donc, je peux comprendre. Et en plus, ils se retrouvent dans le monde des morts avec plein de canards, et t'es en mode.
Non, et puis en plus, pardon, mais le prêtre du royaume. Parce que t'as deux prêtres. Mais le prêtre du royaume des morts qui est en mode. Dis donc, mais en fait, il faut que tu meurs. J'avais pas pensé. Bah ouais, mais il a eu son diplôme de prêtre. Ouh, lui. Évidemment que ça colle pas. C'est à ce moment-là qu'il s'en rend compte.
Après, peut-être que ça fait très longtemps qu'il est mort. Hein, parce que.
Alors c'est possible, enfin ça l'empêche pas d'être. Oui. En tout cas, je trouve qu'il oublie vachement rapidement Victoria à un moment donné.
Mais oui.
Mais
en fait, surtout que tu sais pas trop pourquoi il a changé d'avis. Tu sais pas si c'est juste en mode bon bah elle s'est mariée.
C'est presque qu'il se résigne, tu sais.
Bah c'est, en fait, tu sais pas, c'est ça. Tu sais pas s'il est en mode bon bah je, bon elle a vécu sa vie toute seule dans son coin et ça se trouve elle sera plus heureuse, donc autant que je fasse plaisir à Emily parce que elle a été gentille avec moi, c'est le moment de rattraper. Ou est-ce qu'il est en mode tu sais, en mode presque, peut-être pas incel, mais tu vois, en mode gros rageux qui dit « Bon, bah attends, j'ai pas envie de finir ma vie solo. Bah la meuf, elle s'est barrée. Bon, je vais me rattraper sur l'autre. » Tu sais pas trop, en fait, à
oui,
ce moment-là.
Oui, oui, oui.
Quelle est la raison pour laquelle il décide de changer d'avis, alors?
C'est vrai, mais
tu
vois, je sais
pas. Tu que c'est pas méchant.
Mais ça m'a l'air d'être un peu gratos, en fait. C'est ça qui fait que je... Bizarre. Et genre, du coup, il est sur le point de se marier. Et Victoria, pas de problème, elle accepte la situation. Tu sais, il y a ce moment où il est sur le point de se marier avec Emily. Et l'autre, elle est derrière, elle regarde, elle fait « Oh non. »
Bah, techniquement, elle est mariée. Hein.
Ouais, mais. Oui, c'est vrai. Bah, je la trouve vachement arrangeante quand même. Hein.
Ouais, mais bon, à ce moment-là, elle est mariée à l'époque victorienne. Je suis pas sûre que t'as. Victorienne, pardon. Je suis pas sûre que t'as vraiment ton mot à dire pour dire. Tu vois, t'es une femme, tu viens de t'être mariée. Je sais pas
c'est
si tu peux
faux.
Vraiment aller voir.
Ce que t'es en train de me dire, c'est que c'était pas facile d'être à sa place. Bon, ouais, c'est pas faux. C'est vrai que j'aimerais pas non plus, hein, mais bon.
Parce que si elle avait pas été mariée, ça aurait été bizarre.
C'est vrai.
Mais comme là, à ce moment-là, elle est déjà
mariée.
Elle est mariée.
Ouais, est-ce que ça compte?
Bah oui, parce que techniquement, il a fallu qu'il meure.
C'est vrai.
Pour qu'elle puisse se marier avec Victor. Donc, il ne se marie pas avant.
Hein. C'est pas faux. Bon, ce que j'aime bien, par contre, je l'ai dit sur plusieurs films du même genre, mais t'as la confrontation entre la promise et la femme morte. Ça se fait très vite. T'as vraiment pas ce truc de quiproquo de. Mais
oui.
Non, mais j'ai déjà une femme, etc. Non, c'est vite réglé, ça, j'aime bien. J'en peux plus des quiproquos, je pense. Donc, quand il n'y en a pas, je suis content.
Et puis, même, j'aime bien aussi la manière dont, tu vois, quand t'as Victor qui dit avec ce truc, non, mais c'est qui cette autre femme? Mais t'as pas compris, c'est toi l'autre femme.
Mmh.
Et surtout, j'aime bien la réaction des deux. Tu vois, quand il dit, mais je voulais pas vous marier.
Ouais.
Et enfin, vous épousez, ou je sais pas comment elle dit, il dit ça. Et en fait, t'as Emily, elle part. Mais tu sais, c'est pas elle part en pleurant ou elle part
non.
en colère. C'est juste très froid et tu sens,
ouais.
Et c'est limite plus impactant de la voir partir comme ça
oui.
que de la voir partir en pleurant.
C'est
et
plus
tout.
Réaliste, je pense.
Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, tu la vois et tu fais ouf.
Ouais.
Ça fait vraiment un côté.
Elle a eu mal, quoi.
C'est ça. Et même Victor, après, par sa réaction, tu vois, il va pas lui courir après en mode non, attends, c'est pas ça que je voulais
non,
dire.
Non,
parce que
bah non.
Il sait très bien, tout le monde sait très bien que c'est ça qu'il voulait dire.
Ouais.
Mais c'est juste, c'était peut-être pas la bonne manière
non,
de le dire.
Non, c'est bien fait.
Mais,
en fait.
Mais c'est vraiment une manière, ouais, adulte de faire ouais. la situation.
La psychologie des personnages est plutôt pas mal en vrai. Même si des fois, je trouve que ça va un peu vite. En fait, je pense que le film aurait. Était incroyable s'il avait duré 20 minutes de plus, pour le coup.
Ouais.
Parce que vraiment, il y a ce truc où des fois, c'est rushé sur certaines choses et tu trouves con des trucs qui, si juste ils avaient pris un peu plus de temps, auraient beaucoup de sens. C'est dommage. Emily, c'est Melanie Ravenswood, hein, pour ceux qui ont fait Phantom Manor. Je suis désolé, c'est la même. Bon, pas tout à fait, je vais encore me faire engueuler. Par contre, est-ce qu'elle peut arrêter de faire ça avec son œil, par pitié? L'œil qui s'en va avec la petite climace à l'intérieur. C'est des répugnants, les yeux. On arrête les trucs avec les yeux.
Alors, moi, l'œil en lui-même qui tombe, ça ne me dérange pas.
Ouais.
Donc, l'astico qui vit à l'intérieur d'elle,
non,
ça,
mais,
ça me sent vraiment un
corps.
En plus...
Ça te chatouille.
En plus, il est vraiment... Enfin, j'ai vraiment pas le design de l'astico. C'est le seul design du film que j'aime vraiment pas. À chaque fois que je le voyais
ouais.
petit, je faisais... Non.
Non.
C'est
non. Mais Emily, elle est aussi vachement balèze. Il y a un moment donné où elle menace l'ordre de trucs, là, et elle fait hyper peur. Et donc non, c'est un personnage hyper intéressant, je trouve, pour le coup. Tu parlais de l'astico. C'est ce truc-là que tu pensais que j'avais pris de...
Ouais,
eh ben non, en fait, Mille et une pattes, je vais te dire, le père de Victor, on dirait la coccinelle de Mille et une pattes.
Marcel ?
Oui. Tout trapu, machin, etc. Comme ça.
Ah non, le père de Victoria.
De Victoria ?
Bah oui.
Oui, Victoria, pardon, c'est moi qui disais n'importe quoi.
Parce que j'étais en train de dire
le père
de Victor. Tu vois ce que tu m'as dit?
C'est le petit papy. Non,
le père de Victor, c'est la coccinelle, c'est pour ça que je me suis dit.
J'ai mélangé mes familles.
Là, maintenant, je suis d'accord.
On est d'accord, hein, c'est un truc, etc. Mais les familles, justement, peut-être on peut en parler. Il y a une super ambiance dans cette répétition de mariage, dis donc, on s'enjaille ou pas? Mais même leur genre de petite fête après le mariage.
Ils sont fauchés, quoi.
Je veux bien qu'ils soient fauchés, mais là, quand même, on se fait Enfin, pardon, mais.
Au moins du principe de Victoria, je pense que. Je pense que déjà, la famille ne doivent pas trop s'aimer de base.
Non.
Et parce que tu vois que, vu comment il est, le père et la mère, je pense qu'ils doivent pas. Ça doit pas être le genre à aller taper la famille, aller voir les familles pour dire oh, salut, comment ça va? Ça fait longtemps, ils doivent plutôt les dire en disant putain, faut qu'on les invite alors qu'on n'a pas d'Afrique et. Et tout. Et
filez-nous votre fils et le reste, on s'en fout, quoi. Et puis
imagine, t'es invité à un mariage, la mariée, elle veut pas se marier et elle pleure lors de son repas de noces. Tu manges le repas le plus triste du monde parce que y a pas de budget.
Ah bah y a pas de budget non.
Et en plus probablement t'aimes pas trop les gens avec qui tu vas parler. Tu m'étonnes que l'ambiance elle est.
Ok, peut-être que c'est une bonne raison pour laquelle l'ambiance est naze effectivement. En tout cas ouais non, sur ces familles ils sont tous un petit peu caricaturales, mais je trouve pas ça choquant. Chacun a un peu son rôle.
Bah c'est surtout qu'ils ont pas le temps d'avoir plus.
C'est ça, bah encore une fois c'est toujours le problème du timing quoi. Et mais c'est pas choquant, tu sais, le père et la mère de Victoria, vraiment je les trouve pour le coup très réussis. Ils sont exécrables. Ils sont très ils pensent à eux, à leur pognon et la survie de leur truc, et puis c'est tout quoi.
Et puis leur manière où tu vois ils jugent la famille de Victor en disant c'est des nouveaux riches, ils savent pas comment se tenir et tout.
Tu le sens tout le long qu'il y a ce côté. En fait c'est vraiment sur leur posture, leur façon d'être. Tu sens un genre de mépris pour à peu près tout, pour tout le monde, qui, je trouve, marche très très bien. En fait, je pense que, encore une fois, c'est lié au timing, mais il y a aussi beaucoup de personnages en vrai.
C'est vrai.
Et quand ils pensent entre. Il y a
85 personnages dans tout le film.
Mais c'est ça, et il y en a pas mal qui sont importants, parce qu'entre les quatre parents, la bonne, qui soutient à Victoria pas mal, t'as trois héros.
Le prêtre,
deux prêtres.
Oui, là je reste dans le monde des vivants, mais oui, le prêtre.
Non, mais enfin.
Oui, t'as deux prêtres.
Même le cocher, enfin c'est con, mais.
Mayu. C'est comme ça qu'il s'appelle.
Il s'appelle
Mayu.
Mayu, d'accord.
Mayu, je sais pas. C'est bizarre, mais c'est.
Ok, Mayu, très bien. Tout ça pour dire que ça fait du monde et que je veux bien concevoir que ce soit pas facile de donner suffisamment de place à tout ça, quoi. Surtout pour un film de 1h10, quoi. Il y a le majordome aussi, c'est Alfred. Il a la même voix que Alfred.
Bah, c'est parce que ça tombe bien parce qu'en anglais c'est le même acteur que celui qui a fait Alfred dans les deux Batman de Burton.
Effectivement. Ça tombe.
À croire que Burton aime bien utiliser des acteurs d'un film à un autre.
Il faut croire. Dans le même style, d'ailleurs, le prêtre, c'est Doc Brown, le piraté, hein, évidemment.
Et c'est. Comment il s'appelle
Jack Lloyd, j'imagine, en.
Christopher Lee.
Christopher Lee.
Oui.
Saruman.
Oui.
Ah oh ouais.
Bah, il avait déjà fait.
Le Comte Dooku, Dracula.
Pour donner l'idée, je pense que ça devait être très pratique parce que t'as quand même Charlie la Chocolaterie qui se filme et donc t'as Helena Bonham Carter,
Johnny Depp
et Christopher Lee qui sont les trois en train de tourner Charlie.
Ouais,
et limite, je me demande si Helena Bonham Carter s'est pas retrouvée à être la mère parce qu'à ce moment-là, t'as Burton, il est en Angleterre.
T'as
pour
deux minutes
films.
Ou
ouais, bah, ça fait un peu ça.
J'avoue. Ah oui, en fait, il y avait énormément de liens entre les deux. Ouais.
D'ailleurs, il disait que Johnny Depp, il était un peu, ça faisait un peu schizophrène parce que d'un côté, quand il était sur Charlie, il faisait un personnage totalement fou. Et de l'autre côté, il se retrouve à faire Victor, qui est tout l'opposé.
C'est vrai qu'il est très... Ouais. Wow, ça l'a pas aidé à devenir quelqu'un de bien. Hein. Bref. Ouais. Le prêtre, juste vite fait, en parlant de quelqu'un de bien, le prêtre, c'est vraiment une saleté. Hein. De façon du « je sais ce qu'il faut faire !» et qu'il ramène Victor chez lui, c'est vraiment... c'est pas très gentil. Victoria, d'ailleurs. J'y arrive pas. Hein.
Ouais, je
mélange.
Ça, hein.
De ouf. C'est un truc de malade. Bref, il y a beaucoup de personnages en 1h10. C'est pas facile. Cela dit, qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut parler du fait que le film est glauque, par exemple. c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, un film peut-être glauque, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un peu flippant, je trouve, qu'il se fasse aspirer dans le sol par une main squelette comme ça, avec des corbeaux, la musique et tout, quand il a son mariage entre guillemets. Là. C'est assez hardcore. Et en fait, t'as pas mal de personnages qui décèdent, genre le cocher qui meurt un peu au pif là, parce qu'il tousse.
Ouais, qui meurt de son cancer des poumons.
Bah ouais. C'est... Mais il a l'air en plus encore plus heureux une fois mort. Il y a ce truc où...
Faut pas être suicidaire en regardant
bah
le film.
C'est ça, parce que le film te montre vraiment que la vie c'est un peu nul et que franchement la mort c'est pas si mal. Et bah, c'est un peu une incitation de suicide sur 20, quoi. Et le pire c'est qu'à la fin, Victor il est parti pour se suicider, quoi.
Donc, oui, mais justement à la fin il ne suicide pas.
Non, il y a, c'est leur machin qui le fait sans faire exprès. Mais c'est glauque un peu, quoi.
Bah c'est Tim Burton, quoi. Donc c'est un rapport à la mort où c'est montré que.
Oh, mais Tim Burton qui montre. Dans l'étrange Noël, que Halloween, les monstres, etc., c'est une chose, et qu'ils peuvent être gentils, méchants, tout ce que tu veux, c'est quelque chose. Là, c'est vraiment un film qui te dit, franchement, le monde des morts, ça a l'air chouette, hein, alors que le monde des vivants, on se fait chier, quoi. J'espère qu'effectivement, les gens suicidaires ne regardent pas trop ce film. qu'est-ce que j'avais d'autre ? Est-ce que c'est rigolo ? En fait, il y a une scène qui m'a vraiment fait rire plusieurs fois, c'est les morts qui reviennent. À la vie d'un... enfin qui viennent et qui attaquent entre gros guillemets la scène de le banquet après le mariage, quoi.
Ouais.
T'as une succession de vannes avec l'autre qui reste bloqué. Il y a un œil dans ma soupe. Il y a le on ne se connaît pas mais j'ai grignoté votre défunte mère.
Oui, cela est hardcore.
C'est moi ça me fait hurler. Si mon grand-père voyait ça, il se retournerait dans sa tombe et l'autre à côté.
Tu sais où est-ce que t'as rangé l'eau de vie à l'inverse que ça.
Mais c'est vraiment bien, quoi. Et même le prêtre qui essaie de repousser tout le monde et puis d'un seul coup dit oh, hey, on parlait moins fort, on est dans une église quand même. C'est je pense qu'il aime pas beaucoup les églises d'ailleurs, Tim Burton à mon avis, mais
enfin, il aime pas la religion en général, hein,
ça se voit. Mais vraiment le en fait le monde des morts est rigolo, t'as un peu plus de vannes à ce truc là c'est pas un film qui est forcément très drôle, mais il y a tous ces moments là qui sont plutôt pas mal, et du coup en vrai ça va.
Après oui, après en fait ça va parce que c'est pas un film qui veut sauver une comédie, tu vois, c'est pas un par rapport à typiquement à l'époque où t'avais beaucoup de films de DreamWorks qui a été à fond sur la comédie, tu vois, 2005, on est sur l'époque de Madagascar, Gang de requins, où
c'est
vraiment...
c'est sûr que là c'est pas la même ambiance,
c'est ça, où c'est vraiment gag sur gag sur gag sur gag. Même voilà, c'est Gromit en comparaison,
bien sûr,
qui a beaucoup plus de gags. Là le film il se veut quand même plus sérieux que
quand
limite
même.
En comparaison Charlie la chocolatrice veut plus humoriste que
c'est
ce
plus
film,
rigolo, ouais. Alors que pourtant il y a quand même beaucoup d'enfants qui se font buter dans ce film, on se rend pas compte.
Non mais non, justement ils te montrent à la fin qu'ils ont tous survécu.
Ouais. Mon avis, il y a 2-3 traumas dans l'histoire. Hein.
Ah, ça c'est pas pareil. J'ai dit qu'ils ont survécu. J'ai pas dit qu'ils ont survécu.
Qu'ils sont de restés manière. Sains.
C'est ça.
Ils sont sains et saufs. Bon, en tout cas, ils sont saufs. Après, la boutique de seconde main qui m'a fait rire aussi.
Oui. Qui a pas été traduite en français, mais qui
ça marche bien. J'aime bien. On n'a pas parlé de Lord Brakis. Est-ce que t'as Je pense qu'à force d'avoir vu le film, tu as compris le foreshadowing un petit peu, parce que t'as l'ombre du Seigneur Brakis que tu vois. Quand Emily dit qu'elle s'est faite tuer, et ça je l'ai repéré, j'ai dit oh l'ombre là, je crois que c'est l'ombre du bref, c'est
du
l'ombre du
personnage
plot twist
qui vient d'apparaître et qui est le seul qui a pas envie de
prévisible.
Ça, t'as un méchant, t'as un personnage qui a rien à voir avec tout dans l'histoire, tu te fais peut-être qu'il y a quand même un rapport à un moment ou à un autre.
Il vient au pif, c'est vraiment genre vous connaissez lui, non, non plus.
Et surtout qu'en plus c'est pareil.
Donnez-lui une chaise, ok. Je veux quoi.
J'ai pas fait gaffe, mais pareil qu'au moment la scène où il apparaît. Enfin, où il apparaît pour la première fois, il apparaît vraiment de nulle part. Genre, en gros, ils l'ont fait.
Hip-hop, quoi.
C'est un peu ça. J'ai pas eu le temps de regarder ça pour voir, parce que j'ai eu le temps d'essayer de voir d'autres problèmes, un peu de trucs ratés dans le film, mais je sais qu'ils disent que visiblement,
il
la première scène où il apparaît.
Hip-hop.
C'est ça. Techniquement, il apparaît dans un truc où il n'est pas censé être là avant. Alors, je sais pas si c'est genre. Comme s'il sort d'un endroit où il est pas censé être dedans ou quelque chose comme ça, mais bref.
Bon, en tout cas, il est assez répugnant à vouloir épouser en plus une gamine alors qu'il a une allure de quand même relativement âgée.
Bah, il
père,
a au moins eu le temps de se marier avec.
Oui, qu'elle soit morte depuis un petit moment.
C'est ça,
enfin, a priori, ça va, il est bien. Hein. Bon, effectivement, on le voit grave venir, mais.
Et puis après aussi, tu parlais du foreshadowing, pardon.
Ouais.
Mais t'as quand
pardon.
Même aussi un moment où il disait. Où, tu sais, où t'as les parents, que j'aime bien quand c'est subtil, les parents de enfin, c'est pas subtil, justement,
oui.
Mais tu sais, de Victoria qui font « Il y a quelqu'un dans votre vie ?» un truc comme ça, et qui fait « Non, malheureusement. »
Malheureusement, non. Oui,
j'ai été fiancée par le passé, mais malheureusement, il lui est arrivé quelque chose.
Il s'est passé un truc.
C'est ça.
Clin d'œil.
Et donc, c'est là, hein, où, normalement, c'est le moment où t'es censé faire.
Je crois que j'ai compris où est-ce qu'il faut en finir.
Ah, c'est comme aussi dans pour rester dans le foreshadowing, qui est un moment dans le film, c'est quand Emily elle chante sa chanson où elle est toute triste pour dire si je me fais brûler par une bougie, je me fais pas mal. Et à un moment, elle te dit qu'elle peut se prendre un couteau dans le cœur et ça lui fait rien. À la fin du film, elle se prend un couteau dans le cœur pour protéger Victor.
J'avais pas tiqué parce que ça lui fait rien, effectivement.
Ça, c'est le seul où j'ai recapté que là, en le rematant, autant pas l'autre, autant te dire que oui, j'étais pas bête, même d'enfant.
Bien vu.
Ça, c'est en le revoyant, j'ai fait. Ah oui, bien vu.
C'est aussi, ça aussi, hein, c'est vraiment mourir, c'est pas si mal, finalement, je ne sens plus rien.
Non, mais non, la musique, c'est pas ça.
Bah, elle est un peu tristou, mais elle est un peu aussi en mode oui, ouais, je sais que je ne sens pas les trucs, mais bon, quand même.
Pour moi, c'est plus en mode justement, elle ressent pas les trucs de. C'est les autres à côté, c'est l'asticot et la veuve noire qui essayent de, de lui dire non, mais regarde, t'es bien, mais elle, elle est en mode. Pour moi, quand elle dit je peux avoir le doigt sur une bougie et ça me fait pas mal, c'est en mode.
Elle ressent rien, quoi.
Elle est morte.
Ah, j'avais pas perçu comme ça, tu vois. Ouais,
parce que justement, comme elle est un peu déprimée, je la vois pas être en mode.
C'est vrai qu'elle est un peu déprimée. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle était. Ouais, je sais pas. Non,
moi,
mais
c'est
écoute.
Plus. Je suis pas vivante par rapport à elle. Je ressens rien.
J'entends et accepte. Avec plaisir. Et donc, la messie de Lord Brakis qui boit le poison. C'est vraiment au pif, tu le vois venir en plus. Il y a le truc à la main. Et santé. Et il boit et il meurt. C'est vraiment bon, très bien, ça fonctionne. Et, mais...
Normalement, dans la première version du film,
ouais.
Attends, faut que je retrouve parce que j'ai pris mes notes sous les yeux. Mais dans la première version du film, normalement, en fait, c'était alors déjà, c'était pas l'ancien fiancé d'Emily,
d'accord,
mais c'était un bandit de grand chemin qui avait volé,
qui est passé dans le coin. Hein.
Qu'en fait, il avait il l'a vu, il l'a volé et en plus, il l'a étranglé. Pour la... enfin, bon, en fait, il l'étrangle, il la tue et après il la vole.
Ok.
Vole.
Ouais.
Et on reste quand même sur un film pour enfants.
Oui.
Et en
oui.
fait, c'est la
je vois ce que tu veux
dire. la bague qu'il a volée à Emily, c'est celle qu'il a donnée à Victoria. Et c'était comme ça pendant un moment qu'il la reconnaissait.
D'accord.
Et en fait, à la base, il n'était pas censé mourir, donc dans cette première version de l'histoire. Mais
il venait quoi ?
Bah, en fait, il était enfermé en prison, tout simplement.
Ah oui, d'accord.
Et mais t'avais les morts qui lui promettaient de lui infliger une punition quand il serait mort. En gros, il lui dit bah voilà, là, tu es dans le monde des vivants, on laisse les vivants te juger. Bah, alors, par contre, toi, quand tu vas mourir,
tu vas prendre cher.
Ouais, et c'est un peu, ils ont un peu gardé ça dans le film.
Un petit
mais
peu,
je pense,
oui, c'est vrai.
Je sais pas, c'était peut-être pour qu'il ait une punition plus directe, parce qu'au final, tu vois, celle à qui il a causé le plus de tort, c'est Emily. Donc peut-être que ça faisait bizarre de pas avoir un truc pour eux, mais tu vois que ce soit les vivants qui le punissent alors que c'est une morte qui je sais pas, c'est pour ça qu'ils ont changé, mais...
Je comprends ce que tu veux dire. Il faut que tu m'expliques un petit peu la fin, Pauline, parce que déjà je trouve que ça va un peu vite, mais bon, pourquoi pas, tout va un peu vite en fait. Mais donc à la fin, Emily, elle va dans l'au-delà, donc genre il y a les gens qui restent squelettes et d'autres qui sont pas squelettes et qui vont dans le... Quelle est la règle, Pauline ?
Moi, j'avais vu des gens dire que potentiellement... Mais alors, c'est pas prouvé. Hein. Mais j'avais vu des gens théoriser que c'était potentiellement un purgatoire et qu'après, les autres partent dans un autre monde.
C'est assez classique, hein, finalement, dans ce genre de...
Ouais. Alors après, moi, je pense pas que ce soit ça. Ce serait un peu déprimant de se dire que t'as vraiment tout le monde ou presque qui sont coincés.
Ouais, parce qu'ils sont vraiment beaucoup là. Pourquoi est-ce qu'il vient pas au-delà, lui aussi ?
Enfin, après, tu me diras, le principe du purgatoire, c'est de mettre les gens un peu aux F, quoi. Enfin.
Les grouillots.
Non, mais c'est ceux qui ont. Enfin, normalement, il me semble que le purgatoire, en vrai, c'est plus pour les personnes qui sont pas baptisées, par exemple. Et tout.
D'accord.
Parce que
c'est
mes souvenirs d'histoire où on nous apprenait un peu les trucs de religion, si vous expliquiez. C'était. À une époque, t'avais beaucoup de bons enfants qui mouraient avant de pouvoir se faire baptiser.
Oui.
Et donc, t'as les parents qui étaient en mode attends, mais mon enfant, il va pas pouvoir aller au paradis parce qu'il est pas baptisé.
Non,
il va aller en enfer. Et puis après, t'as les prêtres qui ont fait
non, mais.
Ouais, non, mais non, en fait, on va faire un purgatoire et tous les bébés vont là-bas.
Les deux.
Alors, c'est pas le paradis parce qu'il faut pas non plus qu'on vende ça comme étant trop cool.
Non,
donc, soyez baptisés.
Pas déconner.
Mais bon, vous avez quand
c'est
même.
C'est pas l'enfer, soyez pas trop déprimés non plus.
C'est ça, vous avez quand même perdu votre bébé, donc on va peut-être
on
pas le dire qu'il est en train de brûler dans les feux.
D'être moins glauque, quoi. Oui, je comprends. En plus, il est pour rien, le pauvre, il a fait ce qu'il a pu.
Bah, c'est ça, donc. Mais donc, je sais pas. Donc, je sais pas, c'est que pour le prêtre.
Il y a un personnage qu'on a oublié, Pauline, et c'est dommage, j'aurais voulu qu'on le voit vachement plus. C'est Scraps. Pardon, mais le petit chien. Alors bon, comment ça, c'est toi le plus beau ? Parce que vraiment, il voit son squelette de chien face à lui. Mais oh, c'est toi le plus beau. Et là, je fais oui. On...
Alors, je te le souhaite
la
pas.
La beauté
hein.
est subjective.
Je te le souhaite pas. Mais si tu retrouves Ross ou Lumo.
Oui.
Après ne pas l'avoir vu pendant un long temps, parce
que
probablement
ce que tu veux dire.
Il était enfant quand il l'avait, et que là, il a quand même l'air d'être adulte. je pense que tu dirais t'es le plus beau, même si tu ne penses pas que c'est le plus beau.
C'est vrai.
Puis c'est comme un sphinx, tu me diras.
Non, mais t'as raison. Mais c'est dommage, on voudrait le voir plus. En plus, vraiment, en fait, c'est sur cette scène uniquement qu'il est là. Et il est incroyable, parce que vraiment, il roule. Oui. Et sa tête, elle reste dans l'axe.
Oui.
Moi, j'aime beaucoup. Et l'autre qui lui fait « Fais-le mort !» Et le chien qui dit « Bah... »
Là, tu le vois un tout petit peu après. Alors, en plus de mordre Barkis à la fin, mais bon, c'est un peu anecdotique.
Oui, oui, oui.
Mais c'est lui qui va un peu guider Victor à Emily pour que les deux, ils se réconcilient.
Ah oui, ça me dit que...
C'est lui qui ramène le bouquet de fleurs à Victor vas-y, regarde, elle est triste, elle est en train de... Ouais. Et donc, pour t'expliquer pour la fin, moi, je pense qu'en fait, tout simplement, c'est pour essayer de faire une bonne fin avec Emily. Sans qu'elle soit...
Bah oui, parce que sinon, elle est juste toute seule, et puis...
c'est ça. Et en vrai...
Ah, j'ai eu Casper en fin déprimante avec des fantômes qui connaissent pas l'amour du tout. Ça va, voilà.
Allez, moment... T'aurais choix, tu voulais qu'ils finissent avec qui?
Ah non, mais pour moi, les deux vivants ensemble, ça me semble très bien. Hein.
Non, parce
peut-être
que
je suis un peu trop terre-à-terre, les trucs un peu traditionnalistes, je ne sais pas, mais c'est vrai que... S'il faut qu'il décède pour rejoindre quelqu'un, et il est encore jeune, laissez-lui un peu la vie dans ce monde triste et morne.
Parce qu'on va pas se mentir que généralement le couple le plus populaire...
C'est avec Émilie ?
C'est avec Émilie.
Ah ouais ?
Et à de loin. Et en même temps, je peux comprendre parce que tu le vois plus passer du temps avec Émilie qu'avec Victoria.
Ouais, mais Victoria, elle est sympa quand même. Enfin, pardon, mais elle joue vachement bien du piano déjà. Moi, j'aime bien le piano.
Mais Victoria, en plus, elle joue pas du piano, c'est Émilie qui joue du piano. Parce que Victor joue du piano, mais après elle dit « Ah, c'est bien, tu joues du piano, j'ai pas le droit d'en jouer. »
C'est vrai qu'elle a pas le droit, t'as raison. Ah non, je préfère Émilie. Voilà, merci. C'est vrai.
Non, c'est que Victor. Et justement, il y en a qui disent que les deux... Regardez, les deux, ils ont plus des trucs. Parce que justement, à un moment, c'est ce qu'ils lui disent, les bestioles. Mm. Et ils lui font « Mais regarde, t'as plein de trucs, vous avez plein de trucs en commun, vous aimez bien faire du piano et tout. » Et je fais « Effectivement, c'est vrai que Victoria et Victor, ils ont peut-être pas grand-chose en commun. »
Mais ils viennent à peine de se rencontrer. Ah, voilà, dans les deux cas, après. Hein. Moi, alors, vraiment, je suis presque team. Victor, peut-être, il se calme 2 minutes. Il prend une petite année pour réfléchir. Il sort avec l'une s'il a envie et puis il voit... Et peut-être le mariage, on attend un peu. On a 2 secondes, non?
Alors que moi, je suis team. Pourquoi choisir?
oui, non, mais après.
Parce que si on est dans un film où potentiellement on te dit, la nécrophilie, c'est pas si mal que ça.
Et bah, au point
franchement,
on en est.
Je me dis qu'à côté, être en polyamour, c'est quand même.
Et puis, si
c'est quand même plus soft.
Emily et Victoria, elles s'entendraient bien aussi, on sait pas. C'est vrai qu'on n'a pas essayé. C'est
après,
vrai, t'as raison.
C'est pas obligé.
Ah non, mais bien sûr,
je vais reprendre un truc populaire sur internet.
Mais...
Victor, il a 2 mains. Alors c'est pas ça là.
Non.
C'est juste pour
j'ai
dire
bien compris.
Que normalement où c'était des trucs où c'est tu vois un personnage qui tient la main à l'un et ils font.
Oui, Pauline.
Victor il a 2 mains et tu fais.
Alors que toi tu ne peux pas là puisque tu as un micro.
Bah,
donc, tu peux pas me mimer la scène.
Si bah voilà, je mime mais quand.
T'as essayé, tu n'as pas réussi Pauline.
Tu peux vraiment que je le mime pour
non,
toi.
Non ça va aller.
Parce que je peux mimer pour toi si tu veux.
On va s'en sortir. Merci pour cette révélation. Effectivement maintenant que j'y pense il y a plein d'options en fait. Ou alors mais tout le monde se suicide, on n'en parle plus, je ne sais pas. Mais c'est vrai que du coup, elle s'en va dans les étoiles.
Mais en fait, moi j'aime bien cette fin.
Ouais.
Parce qu'en fait, tout le long du film, Victor, Emily, elle est. Là, tu vois, c'est sa condition de marier. Mm-hmm. Et donc, tu vois, c'est tout le temps sa relation avec les hommes qui l'a définie. Puis
c'est
en fait,
vrai.
À la fin, c'est en se disant, bah non, mais en fait, c'est limite, tu vois, elle se rend compte en mode.
C'est vrai qu'elle elle se libère un peu.
Bah, c'est ça, c'est en fait en mode, en fait, j'ai pas besoin d'un homme pour exister.
Et bon, c'est vrai qu'elle avait ce truc de. C'est pour ça que pour le coup, le côté purgatoire, il fonctionne avec elle, mais pas, je pense, avec les autres.
Oui, c'est vrai.
Qu'elle est plus ou moins enfermée dans ce rôle de mariée jusqu'à ce que quelqu'un accepte enfin de l'épouser.
C'est ça.
C'est peut-être ça qui fait qu'elle est aussi contente d'eux. Mais.
Clairement, oui. C'est ce qu'elle Pour elle, j'aime vraiment bien sa fin et je trouve que c'est. Je sais que plus jeune, justement, moi, j'étais plutôt Team Emily.
Ok, quand même.
J'étais en mode, justement.
Ils ont passé plus de temps ensemble,
c'est
ils
ça,
ont plus de points communs.
Victor, en plus, généralement, comme le monde des vivants était terne. Un peu avance rapide sur le monde des vivants et donc je regardais
comprends.
Que le monde des morts donc moi j'étais en mode non et tout et donc maintenant je comprends pourquoi il reste avec Victoria, je préfère mieux qu'il reste avec Victoria
et mode... puis je la trouve justement très la vache elle encaisse quoi elle encaisse elle dit rien elle accepte la pauvre quoi j'ai beaucoup de sympathie pour les deux en réalité. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur les noces funèbres?
Non, moi ça me semble bon.
Très bien. Alors Pauline, est-ce que tu as des critiques pour les noces funèbres?
Bien sûr.
Waouh.
Déjà, on a le Rotten Tomatoes.
Ouais.
Pour rappel, il passe à la fin.
Et oui, maintenant c'est là.
Il est plutôt positif.
Tu le dis avec un petit positif.
Bah, c'est qu'en fait, les spectateurs, ils sont un peu...
Ça chafouine.
Ouais. Les spectateurs...
sont pas très gentils.
Ouais.
Ok.
La presse a 84% d'avis favorables.
84, c'est bien. Ouais, c'est très bien.
Mais les spectateurs ont 77.
Ah oui, c'est un petit peu moins. C'est pas nul.
Ouais, mais ce sera un 3,6, quoi.
C'est une façon de voir les choses. C'est plus de 15 sur 20. J'aurais été content d'avoir 15 sur 20 au bac.
Oui, si je te dis qu'elle est 3,6 sur 5...
Oui, ça sonne un peu moins... Comme quoi, tout est une question d'échelle, finalement.
Et donc, le consensus de la presse est... Ouais. Comme on peut s'y attendre d'un film de Tim Burton, Les Noces Funèbres est fantaisiste et macabre, visuellement imaginatif et émotionnellement doux-amer.
Oui, oui, ça colle. On dit oui. C'est un Burton 2000, finalement.
En France, en comparaison, on a quand même été beaucoup plus gentil. Hein,
ah ouais ?
Avec un 4,2 sur 5 pour la presse, okay. Et un 4 sur 5 pour les spectateurs.
Ah oui, effectivement.
Donc, après, peut-être que nous, justement, ça nous parle un peu plus... Après, tu vois, c'est ce que je disais.
Ça, c'est la mort, le... bien.
Non, mais un film plus adulte, ouais. On va dire.
Dans une période où t'as full DreamWorks, peut-être que ce truc-là, il a fait du bien aux gens comme nous.
Disney, en 2005, à ce moment-là, c'est le moment
c'est
où
Cusco.
Ils font la... Cusco, c'est 2000. Non, ah oui. On est plus sur La Ferme se rebelle, on est plus
Oula.
Sur Chicken Little. Et
Oula
on...
Ah oui, il était temps d'avoir Les Noces Funèbres, effectivement.
C'est ça, parce que c'est...
Ah, c'est 2000, Cusco.
2001.
Ouais, je suis toujours persuadé que c'est plus milieu des années 2000. Moi.
Non, parce que c'est...
Non,
c'est...
t'as raison.
C'est un peu... Moi, j'ai tendance à arrêter l'âge d'or, même si je sais qu'officiellement, c'est pas là la fin. Moi, j'ai tendance à arrêter à Cusco.
Ok.
Parce que comme ça, tu mets Fantasia 2000, comme ça, tu mets Cusco, et moi, je l'arrête là.
Ok.
Et après, ça passe sur... Atlantis, ça passe sur la planète au trésor.
Quoi, tu vois
ça
que,
passe
je
sur,
crois que Mea, elle l'arrête presque à Pocahontas. Quoi. Ça va très vite.
Après, Mea, elle le fait commencer à Oliver et compagnie.
C'est vrai, mais ça...
Moi, je fais quoi? Attends, je prends. Elle peut l'arrêter avant, donc tant pis pour le boss de Notre-Dame, tant pis pour Mulan, mais
tant
Oliver et compagnie.
Tant pis pour Hercule, c'est pas grave.
Mais donc, ouais, donc, tu vois, donc là, c'est à ce moment-là, ouais, t'es sur La Ferme se rebelle, Chicken Little est je suis pas sûre que ça soit sorti ou alors ça sort en deux. Je sais plus si c'est 2005 ou 2006 Chicken Little, mais tu vois là c'est
ouais,
le moment où
d'accord.
Disney
on est au fond hein,
Disney
ouais,
est au fond
ouais, famille Robinson tout ça là ouf.
Ah, moi j'aime bien
bah, j'aime bien aussi mais... Ah, bah, tu vois j'aime bien aussi moi je trouve qu'il est sous-coté ce film un petit
je
peu.
Suis tout à fait d'accord
et voilà
et
on
bah,
l'a
on va...
dit.
D'ailleurs on va le voir dans le court-métrage du début et t'as tout le monde qui était hypé sur internet de voir qu'il allait être
et ben bah, je suis très
et
content
donc le film est en train d'avoir une nouvelle hype j'ai l'impression que c'est un peu la planète au trésor des 2007-2008 il y en a plein qui étaient contents de voir
avec plaisir écoute ouais.
Voilà alors dans les critiques françaises on a positif 5 étoiles sur 5 par Jean-Christophe Ferrari. La réussite des Noces Funèbres tient précisément en cela. Déployer un monde qui n'a d'autre consistance que son déploiement, son mouvement, ses arabesques grises, sa calligraphie ondoyante, ses brusques incises.
Tu ne sais pas de quoi tu parles. On ne sait pas toi non plus.
Bah, dans l'idée, je comprends, mais c'est que tu as peut-être mis beaucoup de mots.
Arrête
pour,
de faire genre.
Télérama 5 sur 5 par
Oula.
Jacques Maurice.
Ouais.
Burton a mis 10 ans, dit-on, à ciseler cette petite merveille. Alors, c'est vrai qu'effectivement...
10 ans ?
J'avais vu dans le making-of, ils ont dit « Ah oui, ça fait presque 10 ans. Bah, » Mais j'ai vu sur Internet qu'il aurait commencé qu'à partir de 2003. Enfin, que c'est à partir de 2003 qu'il a commencé à bosser dessus.
Oui, donc c'est pas
même
10 ans.
Même Joe Roft, quand il a donné ça, visiblement, c'est au moment de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, ça serait
ouais.
aux alentours de 93. Donc, 10 ans, bah, ça correspond pas non plus.
C'est pas trop, non ?
Donc, je sais pas, en fait...
Ça a l'air d'être... Ouais. Non, mais il l'avait en tête.
Bah, je sais pas. Mais en tout cas. Je sais que Burton l'avait déjà mentionné ce 10 ans, donc c'est pas Télérama qui se trompe en tout cas.
Ok.
Donc, Burton a mis 10 ans, dit-on, à ciseler cette petite merveille. Pas étonnant quand on voit la richesse du travail accompli. L'action est un enchantement funèbre, d'autant plus séduisant que la grâce ici va toujours de pair avec la brisure, la maladresse, le déséquilibre.
Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de mots, mais ok.
Après, c'est déjà un poil...
Au moins, on comprend ce qu'il dit, mais...
Puis je suis mais un peu plus d'accord avec lui que l'autre qui met juste des mots.
Les arabesques, là, les arabesques grises, là, Arabesque, pour moi, c'est une série chiante des années 90. Donc, pardon. Hein.
Je ne l'ai jamais regardé, non, mais j'en ai pas entendu du bien. Enfin, moi, je m'ai dit, oh, je me suis fait 3 épisodes d'arabesque hier soir avant d'aller me coucher.
Let's go, banger.
Télé-ciné Hobbs, 4 sur 5, par Olivier Bonnard. Le résultat est splendide. Si seulement le cinéaste s'était abstenu de sacrifier à la tradition qui veut qu'un film pour enfants, entre guillemets, soit émaillé de numéros musicaux face au cabaret, l'enchantement eût été total.
Parce que les chansons, c'est pour les enfants.
Bah oui.
Il n'y a que eux qui écoutent les chansons. Bah, c'est bien connu, enfin. Mais
je pense que dans sa tête, c'était chanson égale Disney, Disney égale enfant.
Bien sûr. Mais je pense que quand il a vu La La Land ou The Greatest Showman, il ne savait plus où il était. Hein.
Non, ouais, mais... surtout que tu as pris cela, ou à la limite, genre Greatest Showman, ça pourrait être tout public. Mais vraiment, tu peux sortir tu peux sortir un Sweeney Todd, tu peux sortir un Chicago, tu peux sortir un cabaret.
J'aimerais
bien voir quelle personne qui va voir cabaret qui dit non, mais ça, c'est un truc.
C'est pour les enfants et ça chante.
ça parle de nazis et tout. Non, c'est pour les enfants.
C'est pour les enfants, mais bien sûr.
Rolling Stone. 4 étoiles sur 5 par Grégory Alexandre. Si les noces funèbres n'a peut-être pas toute la fougue romanesque et l'humour désespéré de son illustre aïeul, Mr. Jack donc,
oui, bah oui.
L'animation, sublime, rend une nouvelle fois justice à l'imaginaire et à la beauté.
Eh ben voilà, ben là, mais là c'est bien dit, là voilà, oui c'est joli, ben oui,
mais l'animation est sublime.
Mais c'est moins bien que...
Après je suis d'accord avec lui.
Je suis d'accord aussi. Jack, c'est...
Enfin, pour moi, Jack, c'est le meilleur film en stop motion, je pense.
C'est dommage que ce soit pas Tim Burton, quoi. Ah, je suis célibataire. Je me perds des montées.
Fluctuate.net, 3 étoiles sur 5, par Anne-Laure Bell. Mm-hmm. Les noces funèbres deviennent comparables à un gâteau au yaourt.
Hein?
Pas mauvais, mais un peu banal.
C'est pas du flan, c'est un gâteau yaourt. On le saura.
Il est vrai qu'on attendait peut-être trop. Et qu'après tout, un gâteau au yaourt est rarement un gâteau franchement raté.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais en plus, j'aime pas le gâteau au yaourt. Mais qu'est-ce que tu racontes?
J'aime bien le gâteau au yaourt et je comprends sa comparaison.
Ah ouais? Ah
bah, elle m'a fait beaucoup rire quand je l'ai lu.
Mais enfin.
Mais je comprends la comparaison
avec comparaison
le gâteau.
Faut arrêter de comparer les films d'animation à des pâtisseries.
Mais en vrai, si, je comprends, parce que pour te dire, le gâteau yaourt, c'est le gâteau basique, quoi. C'est,
oui, c'est vrai, ouais. Oui.
Mais que...
Presque le premier truc que t'apprends à cuisiner quand t'es petit, quoi.
Bah c'est ça, c'est le truc, t'as un yaourt dans le frigo, tu sais pas quoi en faire, bon bah vas-y, on va faire
un gâteau.
Vas-y, fais
un gâteau, bah oui.
Bon bah voilà, tu vois, c'est ce qu'elle dit, c'est pas mauvais, mais d'un côté, tu prends pas non plus de risque à le faire, et donc c'est pas une forêt noire que tu peux potentiellement rater et qui devient mangeable. Mais bon, déjà, il y a de l'alcool dedans, donc c'est pas bon.
Ok.
Chroniqueart.com, 2 étoiles sur 5, par Vincent Malosa. Ah oui. Film breloque. Les noces funèbres jouent avec une telle complaisance de l'univers marketé de Burton qu'il s'impose, dès les premières séquences, comme la négation de tout ce qu'il fit, il y a maintenant quelques années, l'humanité de ce cinéma.
J'ai rien compris.
Mais en fait, j'ai pas compris s'ils trouvent que le marketing de Burton, ouais, c'est bien ou c'est pas bien.
Je pense que le marketing, ça a cassé ce qu'ils trouvaient d'humain dans... Qu'en gros, Tim Burton, il faisait un truc qui était très humain, mais que maintenant, devenu marketing, que ça casse tout ce que... Eh, il peut pas faire des phrases dans l'ordre, déjà.
Je pense qu'effectivement, c'est ça.
Ouais, mais je pense qu'il a tort.
Bah, je pense qu'il a raison, mais pas sur ce film.
Oui, alors...
Tu fais exactement la même comparaison. Tu vois ce film, tu mets Phil Breloque. Dark Shadows joue avec une telle complaisance de l'univers marketé de Tim Burton. Et je suis 100% d'accord avec cette comparaison.
Oh, je ne l'ai pas vu. Je signale notamment à ma compagne que je n'ai pas vu Dark Shadows et que donc les propos de Pauline n'engagent que Pauline.
Ah, et bah, les propos de Pauline, Pauline assume ses propos.
Hein. Ah, bah, t'as raison, on assume. Oh,
je suis un peu... Vraiment, j'avais l'impression de voir du Burton qui fait du Burton et qui...
Ok, oh, un peu lourdin, quoi. Bien.
C'était...
Bah, ça arrive. C'était la dernière critique ?
Oui.
Mais alors, qu'en est-il de nos soutiens Patreon ? Ont-ils donné un avis ? Sont-ils d'accord avec nous ? Sont-ils en désaccord ? Sont-ils en train de se battre sur les internets ?
Alors, oui, ils ont donné des avis.
Ah, bah ça, c'est gentil déjà.
Et ils sont 57% à dire c'est pas du flan.
57. Alors, c'est une majorité, mais c'est une majorité légère.
Ouais, parce qu'il y a quand même 29% qui disent que c'est du flan.
Que c'est du flan ? Ah ouais, 29% quand même !
Je pensais pas qu'il y en aurait eu autant. Et 14%
Mais ça, c'est tous les gens qui voulaient Coraline.
Et
14%
de... De c'est funèbre.
C'est
funèbre.
Je redécouvre mes blagues, ça fait rire, c'est terrible quand même. Pardon.
T'as Karine qui nous dit « Il faudrait que je le regarde à nouveau à l'occasion. » Car je l'ai vu lors de sa sortie Blu-ray, soit il y a vraiment longtemps. Alors, si c'est même lors de la sortie origine, les Blu-ray n'existaient même pas, c'était du DVD.
Oui, j'avoue. Oui.
Ou alors, elle l'a acheté.
Bah, c'est peut-être la sortie Blu-ray, oui, au moment où il est sorti en Blu-ray, quoi.
Ouais, donc ça serait quoi, 3-4 ans après ? Je ne sais pas si le film il a eu vraiment tant de succès pour. Enfin, après, oui, forcément, tu ressortais tous les films en Blu-ray, autant en profiter, mais.
J'en ai aucune idée.
Je me souviens qu'il avait une fin réaliste et non happy end, qui était pour le coup originale, avec des guillemets.
Oui.
J'avais beaucoup aimé la photo et l'animation générale du film, mais je pense avoir trouvé le film sans plus. Entre autres parce que j'avais repéré l'antagoniste dès le début, alors que c'était censé être un twist. Est-ce que c'est censé vraiment être un twist? Parce que en vrai...
Ah bah, si c'est un twist, il est raté, pardon.
Bah c'est ça,
donc
mais...
Après, on peut dire, finalement, c'est pas un twist et c'est plus simple, parce que sinon...
J'ai vu le film, je connais le film par cœur, donc c'est...
Non mais même, enfin, vraiment...
Mais en fait, c'est surtout, pour moi, c'est un twist, c'est... Enfin, je pense que oui, en vrai, c'est un twist, mais c'est qu'en fait, c'est un film pas très... C'est pas genre comme si tout le long du film, il y avait un... On s'intéressait vraiment... De qui était le meurtrier de Emily, tu vois, c'est plus en mode dès le début on dit elle a été tuée.
Et il va se révéler d'un coup quoi.
Et c'est ça, et c'est à la fin un peu pour lier les histoires. C'est un peu pour lier les histoires et tout, mais tu vois là en vrai que ça soit le méchant, enfin que ce soit lui qui l'ait tué ou pas, ça change
rien.
Ça permet juste de faire en sorte que ah bah attends on a une excuse pour briser le couple Victoria Barkis et pour avoir Emily qui est pas contente, mais en vrai c'est, je sais pas si c'est un vrai, enfin. C'est un twist, mais c'est pas un... je trouve pas ça très grave que ça soit un
non,
plutôt grossier.
Je suis d'accord.
Et on a aussi Coda Léa qui nous dit « Malgré le fait que je l'ai vu au ciné à Annecy en présence de Tim Burton pendant le festival, je n'ai aucun souvenir de ce film. »
Et alors, je vais te faire un twist qui est meilleur que celui de Tim Burton. J'avais déjà vu ce film avant de le revoir. Et tu m'as bien entendu, pas une seule fois, entendu mentionner le fait que j'avais déjà vu ce film. J'avais... complètement oublié la teneur de ce film. Et en plus, je pense que je le mélange avec l'autre film de Burton qui est un peu pareil, qui est Frankenweenie.
Oui, un peu pareil.
Il y a un chien. C'est pas...
ouais, parce que franchement, j'allais
bah,
dire...
C'est la stop motion, les personnages lui font penser, Frankenweenie, le chien, etc. fait que, voilà. Et en fait, je l'ai... Je pense que j'ai pas mal confondu et que celui-là, vraiment, il m'est sorti de l'esprit. Et c'est certain, je l'ai déjà vu parce que je revoyais les trucs, je redécouvrais les choses, ouais. etc. Mais je n'avais aucun souvenir de ce film. Et je pense que, au-delà du fait que, non, je pense pas que ce soit du flan, mais je le trouve effectivement assez oubliable. Quand tu le regardes pas, alors je pense oui, quand t'as vécu avec, quand t'as beaucoup, voilà, toi, de fait, tu ne peux pas le trouver oubliable. Mais je trouve pour le coup relativement oubliable. Ouais. En fait, quand tu le mets à côté d'un étrange Noël de Monsieur Jack, et même un Lapin-Garou, tu vois, c'est bête. Hein, je pense qu'il est mieux, il est plus intéressant que le Lapin-Garou. Mais le Lapin-Garou, tu t'en souviens. Parce qu'il a son univers
oui,
qui est plus marqué, il se passe des choses rigolos. C'est, bah. Alors que là, c'est peut-être un peu... voilà. Bref, je ne suis plus en couple, hein, vous avez compris. C'était tout pour nos soutiens, nos amis soutiens.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour le futur? Alors, Tim Burton, il a fait d'autres trucs. Je crois que tu as parlé de certains films.
Oui, alors bon, on va faire toute la
filmographie. Bah, la filmographie de Tim Burton, ça va être long.
C'est ça. Mais bah, toi qui viens de le mentionner à l'instant, Tim Burton, il a fait qu'un seul film d'animation après
Les Noces Funèbres.
Et c'est Frankenweenie ouais. qu'il a fait en 2012. Donc
d'accord.
déjà rien que là, il faut attendre presque 7 ans.
Le gap temporaire, ouais.
Ça, faut attendre temporel. 7 ans. Bah, déjà, hein, t'avais presque 13 ans qui séparent. 12 ans, pardon. Qui séparent L'étrange Noël de Monsieur Jack et.
Oh, ah ouais, 12 ans, je m'étais pas rendu compte
c'est. Bah c'est 93 hein. Oh. Ah bah on est sur les 30 ans de Tim Burton sur les de. Oui, Tim Burton a 30 ans.
Tim Burton a 30 ben fait un bon anniversaire à lui.
Des 30
Moi,
ans
j'ai 27
de
ans.
De l'étrange.
Arrête de rigoler.
Sur les 30 ans de l'étrange Noël de Monsieur Jack cette année.
Ouais. Et c'est bien chouette. Et attends, mais c'est pas genre aujourd'hui.
Bon, alors ça, par contre, je ne sais pas. Je n'ai pas le jour de sortie.
Tu sais que le jour où on enregistre ce podcast, c'est les 30 ans de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Est-ce que c'est pas incroyable?
Et, bah,
Et on ne l'a pas fait exprès. J'ai vu cette notification sur mon truc. Parce
Et
que
pourquoi
j'avais...
t'as une notification de ça surtout?
Bah, parce qu'en fait, à une époque pour Flan, j'avais fait un calendrier des anniversaires un peu importants.
Ah.
Et je m'en suis quasiment jamais servi. Et il faudrait que j'en fasse quelque chose, que je le mette à un autre endroit, que notamment toi tu puisses en profiter, parce que pourquoi pas. Mais c'est
oui,
vrai
parce
que.
Il faut vraiment imaginer qu'il m'a montré son téléphone avec juste marqué calendrier du 30 juin de Monsieur Jack, 30 ans. Et tu fais. Pourquoi t'as ça sur ton calendrier? Tu vois, c'est comme si pour un anniversaire de quelqu'un. Tu...
Et ben, voilà, c'est pour cette raison. Et ouais, bah, c'est pas beau ça? C'est pour le soir des 30 ans de.
Mais donc, ouais, donc
bah,
voilà.
on
donc
l'a pas
c'est
fait.
Ça, donc c'est, tu vois, ça fait donc 93.
Donc,
c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. 2005, c'est Les Noces Funèbres. 2012, c'est.
Il prend son temps, Pépère.
Bah ouais, mais il fera après Frankenweenie et surtout il n'y a plus rien. Donc,
Bah il doit y avoir autre chose. Là, ça fait bien 11 ans. Ça va plus tarder.
C'est pas au programme, hein, parce que autant te dire que même, comment ça s'appelle en même temps, c'était pas un film à avoir une suite, hein. Mais même, en vrai, Warner a pas fait grand chose avec les noces funèbres après coup. Je pense que le film a pas réussi à offrir autant un public que l'étrange Noël de Monsieur Jack, même si on a un hein, quand même. J'ai déjà vu régulièrement des personnages, enfin des gens faire des déguisements, justement, surtout beaucoup de cosplay.
Okay.
Que ça soit d'Emily ou de Victor. Évidemment, pas Victoria.
Décidément.
Donc il y a quand même des trucs. Et pour ce qui est de Mike Johnson, lui non plus, il n'a pas fait grand chose.
Non.
Il aura fallu attendre 2017 pour qu'il sorte un autre film en tant que réalisateur. Ah ouais. Et le film, c'est Ping Pong Rabbit.
Le fameux.
Ils n'en ont jamais entendu parler. Non, pour donner une idée, il n'a même pas de fiche Wikipédia.
Super, écoute.
Donc lui, je pense que.
Désolé pour lui.
Je sais pas
pour
si
le coup,
c'est...
il avait fait du bon taf, quoi.
Je sais pas si c'est parce qu'il n'était pas complètement le réalisateur du projet. Parce que tu vois, Henri Salick.
Oui.
Salick,
oui.
Qui était quand même le réalisateur, même si tu vois, il n'était pas connu du grand public, ça a peut-être permis de percer parce qu'après,
le fameux film. Hein, oui.
James et la pêche géante, et il a pu faire Coraline, et il a pu continuer un peu là-dedans.
Alors que le pauvre, là.
Peut-être que, tu vois, justement, moi, avant de faire ce film, j'avais beau adorer Nos Funèbres, j'étais persuadée que Tim Burton était solo sur la réalisation, quoi, donc ça a peut-être pas aidé.
Et non. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il a galéré, effectivement, le pauvre.
Peut-être. Je sais pas. Après aussi, la stop motion, comme on disait, ça reste quand même les gros noms. Enfin, Serge disait qu'il y avait beaucoup de Tim Burton, de stop motion qui existent, mais mine de rien, ça reste quand même que des studios ou des noms qui se font ça, et c'est pas c'est pas non plus n'importe qui peut faire son petit film d'animation stop motion, quoi.
C'est sûr. Alors finalement, Pauline, les noces funèbres, c'est du flan ou c'est pas du flan?
Franchement, vu notre avis très méchant sur le. c'est pas du flan. J'aime trop ce film, j'ai passé un très bon moment devant et je suis tout le temps contente de le revoir. C'est vrai, c'est un film que j'aime bien voir Halloween.
Ça tombe bien. Bon, pour moi, c'est pas du flan non plus. Maintenant, je le trouve peut-être un peu plus oubliable. Peut-être que maintenant, ça ira mieux. Peut-être que, à force, cette histoire sera entrée en moi. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quitte à choisir. Non, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est mieux quand même.
Après, comme je te dis, s'il y a un choix. Je prends ça. Mais généralement, L'étrange Noël de Monsieur Jack, je regarde vers Noël, alors que lui, c'est vraiment le film d'Halloween.
Mais même, j'ai un peu plus de souvenirs de Frankenweenie quand même. Alors que j'ai dû les voir à peu près au même moment.
Après, moi, Frankenweenie, je l'ai vu qu'une fois. Donc, Mais en comparaison, Frankenweenie, j'ai pas énormément de souvenirs. Moi, c'est Frankenweenie, le Tim Burton oubliable.
Comme quoi. Et pour vous, alors, chères auditrices et chers auditeurs, les noces funèbres, c'est du flan ou c'est pas du flan? Venez nous le dire évidemment sur Spotify grâce au sondage lancé sur le podcast. On regardera vos réponses et on en parlera dans le prochain flan. Vous pouvez aussi nous le dire sur Twitter @foulanimé ou sur Instagram flanfoulanimé. Et on peut continuer la discussion ensemble sur discord.foulanimé.com. Merci Pauline pour ton beau travail et pour cette réalisation incroyable de l'enregistrement.
Non, on va aller voir ça, ça se trouve c'était catastrophique et
peut-être,
tu vas pas me remercier.
Peut-être,
ça se trouve
pas.
Là il va passer 2 heures à tout essayer de rattraper au montage.
Il
n'y
a pas de raison. Merci aux patronnes et aux patrons pour leur soutien, bien sûr. Visitez elabel.com pour nous soutenir ou pour découvrir les autres productions du label. D'ailleurs, on a sorti un gros planning pour que vous sachiez à l'avance quel film arrive. C'est quoi le programme? On a parlé de Wish tout à l'heure, on va en parler de Wish.
Oui, mais je ne l'ai pas sur les yeux, donc tu m'as posé un.
Ah ah, on a Wish, on a.
Je me rappelle des films parce que
le prochain
c'est les Trolls 3. C'est les
Trolls
3.
Ouais.
Après, ça va être un sondage patron sur les suites Disney.
Tout à fait.
Où on en a sélectionné 6.
Oui, on a déjà une belle petite liste. Dont je ne me souviens absolument pas.
Moi, je m'en souviens, je ne sais pas si tu veux les dire ou pas.
Tizan 1,
Mulan 2.
Allez, Mulan 2. Il me semble qu'il y est, ouais, tout à fait. Donc peut-être que ce sera Mulan 2. Et puis en décembre, il y a Wish.
Novembre.
Bref, n'hésitez pas à partager ce flan, car un flan partagé, c'est un flan qui retourne à ses racines, surtout s'il mange les pissenlits par ce côté-là. Bye tout le monde.
Bye.
Mort, faut bien y passer. Mais vous ne comprenez pas, finalement c'est ok. On a beau prier, on a beau se cacher. Quand l'heure a sonné, on joue les Maccabées. Génial. Allez, ça tient, vas-y. Ouais.
donnait rendez-vous en pleine nuit, sans le dire à quiconque, sinon c'était cuit. La robe de mariée de sa mère lui allait comme un gant. Rien vous habille quand l'amour mène la danse, à part un ou deux trucs à ce qu'on raconte, comme les bijoux de famille, les lingots et les comptes. Et à côté du cimetière, près du vieux chêne gris, à 3h moins le quart, dans les brumes de la nuit, elle était fin prête, mais où était-il? Elle attendit.
Et ensuite,
elle vit une ombre. Est-ce que c'était lui?
Et ensuite,
son cœur battait la chamade.
Et ensuite,
mon pote, tout est devenu noir. Et quand elle ouvrit les yeux, elle était glacée. Les bijoux envolés et le cœur brisé. Alors elle se jura, étendue sous ses chaînes, qu'un jour, un grand amour viendrait briser ses chaînes. Elle attendit que quelqu'un lui demande sa main. Ah, et voilà qu'un jour, on débarqua ce gamin qui lui promit l'amour au cœur des ténèbres. C'est la triste histoire de ses noces funèbres.